Bonsoir à tous, bonsoir Karine, bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir.
Alors vous avez vu ce matin, j'ai fait une vidéo un peu coup de gueule. Hein. Vous avez vu ma vidéo coup de gueule ce matin. Je parlais de Karine Pratt qui est présente aux côtés de son ami médecin naturopathe. Je voulais quand même présenter qui s'appelle Jean-Philippe Laglaize, qui est médecin quand même depuis 30 ans, qui a développé beaucoup de choses au niveau de la santé au naturel, puisqu'il est naturopathe, et notamment la vitamine C liposomale. Alors, vous vous rappelez la vitamine C liposomale, puisqu'on avait fait un PDF sur cette vitamine C liposomale, et j'avais cité notamment Jean-Philippe Labrèze. Voilà. Donc, la situation aujourd'hui est dramatique, parce que Karine est victime d'injustices graves avec ses enfants, qui sont placés abusivement, chaque jour en France, on a des milliers d'enfants placés abusivement. Ça dure depuis trop longtemps. Et tout ça dans l'indifférence générale. Donc, je voulais donner la parole à Karine et à Jean-Philippe. Après, on reviendra sur des chiffres parce qu'il faut que vous ayez des chiffres pour comprendre véritablement ce qui se passe dans notre pays. On en a beaucoup parlé sur ma page, mais le combat continue. Donc, je vous laisse la parole, Karine et Jean-Philippe. Donc, je précise que Karine a été 20 jours sans manger. Et elle est à 4 jours et demi sans boire. Elle est décidée à aller jusqu'au bout du combat parce que évidemment, elle veut qu'on lui rende ses enfants. Mais je pense qu'elle vous expliquera encore mieux que moi sa situation, bien sûr, pour expliquer comment elle en arrive là depuis 4 ans, 3 ans de combat, 4 ans bientôt. Je vous laisse la parole à tous les deux, Jean-Philippe.
Merci.
Bonjour, merci de nous recevoir et puis merci à ceux qui vont prendre le temps d'écouter cette vidéo. Je me permets de rectifier dès le début, mon nom c'est Trapp, exactement. Donc c'est T-R-A-2-P, mais c'est pas grave. C'est bien moi et on parle bien de, il n'y a pas de problème, merci. Et effectivement, donc j'en suis bientôt 20 jours révolus de grève de la faim et à minuit ce soir, ça fera 4 jours et demi de grève de la soif. Donc, symptômes principaux, c'est quand même une fatigue extrême. J'ai passé mon temps à veiller, je pense. Et puis, dû à la fatigue et surtout à la déshydratation, on va dire, j'ai beaucoup de mal à articuler et à parler, quoi. Donc, ça va pas être très long. Donc, Jean-Philippe prendra peut-être le relais de temps en temps parce que je vais pas pouvoir donner grand-chose au niveau oral, quoi. Voilà.
Ok, alors ben, peut-être avant de laisser Karine développer un peu les raisons pour lesquelles on en est effectivement, comme elle le disait à l'instant, à 20 jours de grève de la faim et pratiquement 4 jours et demi. Donc je me présente moi rapidement, comme ça vous connaissez ceux qui vont avoir le plaisir de vous accompagner un moment ce soir. Donc moi je m'appelle Jean-Philippe Labrèze, j'ai bientôt en juillet prochain 60 ans, donc ça fait 30 ans que je m'efforce, un peu plus de 30 ans que je fais de la médecine, que je m'efforce d'aider les gens, que la vie bouscule, les aléas de la vie, comme on dit, les accidents, les maladies, les... Et là, malheureusement, vous allez voir que dans ce dont on va parler ce soir, ce ne sont pas les aléas de la vie qui bousculent Karine et ses deux enfants, Samuel et Noah, mais ce sont des décisions d'hommes et de femmes. Alors, décisions dont, là encore, on va essayer de vous l'expliquer, nous mettons de façon parfaitement fondée en cause la légitimité, la légalité même, puisque souvent ça bafoue le droit. Et c'est ce qu'on va tenter de vous expliquer ce soir, tranquillement, en fait. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes ni Karine ni moi ne sommes des guerriers. Encore que si guerrier veut dire déterminé, intègre et désireux de rester conforme à des valeurs, alors oui, nous sommes des guerriers, mais nous ne sommes pas en guerre. Voilà. On veut simplement pouvoir retrouver le cours normal de nos vies, que Karine récupère ses enfants et que la vie reprenne son cours. Voilà. Celui qui a été brutalement interrompu il y a 4 ans, on vous dira comment, de façon totalement injustifiée, on vous dira pourquoi. Et voilà. Donc ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Et que Karine se met malheureusement s'inflige une souffrance extrême puisque 20 jours de grève de la faim encore une fois, mais j'allais dire surtout 4 jours et demi de grève de la soif, c'est un préjudice majeur déjà pour elle, hein. Il faut savoir qu'en grève de la soif, on survit à peu près entre 4 et 10 jours. Alors heureusement que je l'aide avec une grève de la faim stricte et une grève de la soif stricte. Elle ne serait pas dans cet état si elle ne prenait parallèlement la vitamine C dont parlait Corinne il y a un instant, qui soutient puissamment l'organisme, en l'occurrence les surrénales, et voilà, qui permet de synthétiser l'adrénaline, et voilà, qui donne de l'énergie, qui booste aussi la production de neuromédiateurs pour qu'elle puisse, après 4 jours et demi de grève de la soif, avoir néanmoins, et 20 jours de grève de la faim, des facultés mentales qui restent opérationnelles. Alors, je vous le dis, elle n'aura pas la vivacité d'esprit et la clarté d'élocution qu'elle a habituellement, mais vous verrez que je pense qu'elle arrivera à se faire comprendre. Voilà, donc ben, je laisse la parole à Corinne, si elle veut nous poser des questions ou si…
Eh ben, moi, je voulais demander comment avait démarré… Alors, il y a quelqu'un, je vais répondre à quelqu'un dans le chat qui dit « Ne faites pas la grève de la faim, c'est trop dangereux ». Donc, on va vous répondre. Une âme, c'est qu'en fait, quand vous n'en pouvez plus de ne plus voir vos enfants et que vous êtes interdit injustement de voir vos deux enfants et que ça fait 3 ans que vous combattez, il ne vous reste qu'une chose pour vous faire entendre. Malheureusement, c'est de pouvoir aller jusqu'à la mort. Et je pense que Karine est déterminée, puisque, comme Jean-Philippe vous l'expliquera tout à l'heure, elle a signé des papiers pour aller jusqu'au bout du combat. Parce qu'elle n'en peut plus psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Elle veut revoir ses enfants. Voilà. Karine, tu en parleras beaucoup mieux que moi, je pense.
Surtout un moyen de tenter de se faire entendre. Et puis, après bientôt 4 ans de combat, effectivement, plutôt que de… Je sais que ça va durer encore des années comme ça. Je me dis, plutôt que de me faire violence encore des années, je donne tout ce que j'ai maintenant et je me fais violence moi-même. Un bon coup, quoi. Voilà. Mais le but ultime, c'est de se faire entendre, évidemment. Et de se demander si avec un dossier comme le mien, aussi flagrant, honteux, est-ce qu'ils vont prendre le risque, eux, de me laisser aller jusque-là? Moi, je le prends. Voilà. Est-ce que eux sont prêts à en assumer les conséquences? Voilà la question que je vous pose. On verra. On aura la réponse dans quelques jours.
C'est important. C'est aussi… Alors, vous verrez, on vous expliquera dans un instant pourquoi on en arrive là. Parce que, bien évidemment… D'abord, Karine ne veut pas mourir. Hein. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui parlait de comportement suicidaire. Je disais non, suicidaire, c'est quand on veut mourir. Karine, elle veut vivre, mais elle veut vivre très légitimement avec ses enfants. Donc, c'est important. Et ce que j'ai écrit au magistrat et à tous les acteurs de ce dossier dans une lettre ouverte, en fait, c'est que ce travail de destruction, de sape, de torture psychologique, Karine le subit depuis 4 ans, de façon couverte. Ça n'apparaît pas, de temps en temps, elle s'exprime un peu, c'est un huis clos en fait. Et là, maintenant, on dit clairement à chacun des acteurs de ce dossier, ce travail de destruction, on va l'afficher aux yeux de tous, de façon à ce que vous soyez clairement rendu responsable de ce que vous créez depuis 4 ans. La destruction de Karine est un préjudice considérable pour Noah, donc l'aîné de ses enfants qui a 11 ans, et Samuel, le cadet, qui a 6 ans. Voilà. Maintenant, ça, c'est exposé au grand jour. Voilà. Est-ce que vous allez assumer au grand jour la destruction que vous êtes en train de faire? Ou est-ce que vous aurez, et c'est ce que je demandais dans la lettre ouverte que j'ai adressée à chacun des acteurs, le courage et l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des dysfonctionnements graves, majeurs, et de corriger ça? Voilà, c'est tout simplement ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaite, c'est que la justice dise effectivement. On ne demande même pas des excuses, on ne demande même pas des dommages et intérêts, on demande simplement la restitution des enfants qui n'auraient jamais dû être enlevés à Karine il y a 4 ans de ça. Et puis elle vous expliquera dans un instant pourquoi et comment.
Tu peux raconter peut-être, Karine, ce qui s'est passé pour tes deux enfants, comment cet engrenage avec l'ASE, avec les juges s'est mis en route. Ou Jean-Philippe, peut-être, je ne sais pas si c'est plus facile. Je sais que tu es très, très, très fatigué.
Si Karine se sent de le faire et si vous l'entendez sans difficulté, je vais la laisser commencer. Et puis, si nécessaire, comme on l'a vu, ou alors il y a aussi une autre option. C'est qu'elle, mais bon, ça peut-être pour les auditeurs être un peu gênant, c'est qu'elle parle et puis que moi, avec le micro, je relaye. Voilà, mais si vous l'entendez, je pense que c'est bon là, Corinne.
Est-ce que tout le monde, moi j'entends très bien, j'ai mis mes oreillettes parce que j'entendais faible. Est-ce que tout le monde dans le chat entend bien Karine parce qu'elle a quand même beaucoup de difficultés à Paris, il faut le savoir. Elle ne boit pas du tout et donc ne buvant pas, elle a la bouche très sèche évidemment et puis une fatigue extrême. Donc, est-ce que mes modérateurs peuvent me répondre dans le chat? Alors, j'ai un modérateur à côté de moi, c'est mon mari, c'est un ange. Est-ce qu'on entend bien, chérie? Est-ce qu'on entend bien? Il a des oreillettes. Est-ce qu'on entend? Oui, très bien, on entend. On entend. Alors, est-ce qu'on entend Corinne surtout?
Super. Alors, le début de l'histoire, donc j'ai effectivement deux enfants. L'aîné Noah, avec qui j'étais déjà séparée du papa. J'étais déjà séparée du papa lorsque j'ai appris être enceinte. J'ai appris qu'il est enceinte. Et Samuel qui est né 5 ans plus tard, donc il avait un autre papa avec qui il y avait un réel projet de vie, de famille. Et c'est avec ce papa-là en fait que tout est parti en cacahuète, on va dire. Donc il y a eu des violences psychologiques assez rapidement, répétées et assez importantes. Et puis après la naissance de l'enfant, se sont ajoutées des violences physiques. Alors je précise que j'ai pas vécu comme j'ai pas vécu non plus l'horreur de la violence physique conjugale. J'ai pas je sais jusqu'à quel point ça peut aller. C'est pas ce que je défends, mais j'ai vécu des violences physiques répétées, ça c'est très clair, et des violences psychologiques importantes sur moi et sur mes deux enfants. Plus une emprise financière, une emprise dans un petit village où il est né, et il nous a un petit peu forcé à rester, on va dire, en supprimant la voiture, les finances, etc. Donc c'était vraiment une prison, quoi. Donc ça a duré comme ça avec ce papa-là 2 années. J'ai eu des difficultés à m'en séparer. Alors je suis pas du genre à me complaire dans la violence, hein, pas du tout. Donc après on peut imaginer quand c'est le père de votre enfant et puis que c'est aussi le beau-père de votre aîné. On part pas en claquant des doigts. On essaie quand même d'arranger les choses avant de partir. Ça peut se comprendre, c'est ce qui m'est arrivé. Mais quand même assez rapidement j'ai compris qu'il fallait mettre un terme par intérêt surtout des enfants. Donc j'ai essayé de partir plusieurs fois, j'ai même fait appel, j'en ai encore les traces des foyers mère-enfant. Bon, je sais maintenant ce que ça peut dire les foyers mère-enfant, donc mais bon, à l'époque je ne connaissais rien des services sociaux ou des repérages dans ce genre de structure. Donc de toute façon ça n'a pas fonctionné puisqu'il n'y avait pas de place. Et puis j'ai décidé vraiment de partir en août 2016. Donc en août 2016 c'était un moment où mes enfants avaient 2 et 7 ans. Et en fait, j'avais mon père chez moi en fin de vie. Donc, sa fin de vie était imminente et puis certaine, quoi. Donc, j'ai eu le malheur de dire à ce papa, pour ceux qui savent ce qui est vraiment un vrai manipulateur, moi, je ne le savais pas encore, mais ça anticipe tout, hein. Donc, l'erreur à faire, que je ne referai pas aujourd'hui, c'est d'avoir annoncé qu'il allait partir. Et lui, il est très intelligent. On peut quand même reconnaître cette qualité. Il savait que j'allais toucher le capital décès de mon père. Donc jusqu'alors, ce qui m'empêchait vraiment de partir, c'était les finances, hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il était vraiment dans un état très, très alarmant et en fin de vie. Mais au lieu de décéder dans les 2-3 mois, comme c'était prévu, et fort heureusement pour lui, il a tenu quasiment 9 mois, quoi. Donc, moi, j'annonçais ce départ-là dès août, mais mon père, et donc le grand-père de mes enfants, il reste à domicile jusqu'à son décès fin février 2017. Donc, le papa de Samuel a eu tout le loisir de bien monter son coup, on va dire. Donc, ça a commencé par quelques voiles de papier, etc., à mon domicile. Des photos compromettantes, entre guillemets. Alors, il est même allé jusqu'à prendre le cannabis de mon père en fin de vie. Hein. Le médecin a pris un certificat qui était bien au courant que mon père, pour soulager ses douleurs, produit du cannabis. Moi, en parallèle, j'ai fait des analyses de sang et urine pour prouver que c'était pas bien, mais pour montrer jusqu'où elle peut aller ce genre de personne, c'est-à-dire de profiter du décès du père et du grand-père pour m'abonner ce genre de choses que le commun des mortels, normalement sain d'esprit, ne n'imaginerait pas. Donc, il a fait tout ça. Il s'est rapproché du père de mon autre enfant, avec qui il est devenu grand ami, instantanément et encore aujourd'hui, puisqu'il passe des week-ends, les fêtes de Noël, les anniversaires des enfants ensemble, etc. Il a aussi saisi... Je pense avoir du mal, j'ai la moustache au bout de quelques minutes.
Jean-Philippe peut peut-être reprendre le micro. Non, si je vais,
et après, j'irai me rejoindre en 2 minutes. Parce que... Et du coup, donc, en parallèle de ça, il a saisi par ce papa-là des services sociaux. Merci. Il a saisi des services sociaux, de la justice. Il s'est rapproché aussi des gendarmes avec qui il s'est lié d'amitié assez rapidement. Donc là, moi, je l'ai vu faire, hein, ce lien d'amitié. Et pour certains gendarmes très malveillants, hein, notamment. Est-ce que je peux citer un nom de gendarme ou on évite les noms?
Tu peux citer tous les noms que tu veux.
Là, le gendarme couturier, je sais plus son prénom d'ailleurs, je le retrouverai. Mais bon, clairement, de la malveillance de ce gendarme. Pour d'autres, je pense qu'il y a eu la naïveté, tout simplement. Hein. Donc, il y a eu 2 poids 2 mesures, hein, c'est-à-dire que quand moi j'appelais les gendarmes en pleine nuit parce que j'avais besoin d'aide, ou même en journée, il n'y avait personne. Et quand ce papa-là appelait pour le moindre petit souci, les gendarmes débarquaient sans délai, quoi. Donc, il y a eu la saisine des services sociaux, la saisine de la justice, et le temps que voilà, je m'occupais, comme le dit mon père, qui était en fin de vie, de mes enfants, j'avais une entreprise aussi à gérer, et puis j'étais toujours isolée dans ce petit village, donc c'est devenu très difficile. Il m'a dénigré en plus de partout, donc certains n'ont pas été dupes, mais voilà, on a aussi vécu dans une ambiance comme ça, où un à un, les voisins vous disent plus bonjour pour certains, ou votre voisin qui est aussi votre propriétaire et de la famille du papa vous coupe l'électricité, le chauffage. Enfin, c'était assez dur à vivre, mais au moment où j'allais enfin reprendre ma liberté, donc mon père malheureusement décédé, et mes deux enfants qui se remettaient, etc., et moi aussi, bon, voilà, du jour au lendemain, en pleine MJIE, c'est une mesure judiciaire d'investigation éducative. Donc, je ne soupçonnais pas qu'on puisse prendre des enfants en pleine enquête comme ça, sans aucun élément autre que la parole d'un père. Donc, ils sont venus me chercher mes enfants, beau jour de mai 2017. Et donc, là, il y a eu plusieurs mensonges accumulés, mais comme ça n'allait pas assez vite à son goût, apparemment, il a rajouté qu'en plus, j'allais partir avec mes enfants, voilà, apparemment. Sauf que je venais d'agrandir ma boutique, je venais de... Le jour même, on m'a pris mes enfants de signer un crédit pour prendre une maison un peu plus grande que ce que me permettait le capital décès de mon père. Voilà, donc vraiment du jour au lendemain, un jeudi, on fait une semaine d'école, donc une urgence extrême, quoi. Les enfants en danger de mort, on les a coupés de leur vie, de leur maison, de leurs copains, comme ça, et ils sont jamais rentrés hein, depuis ce mois. Donc on m'a emmené les enfants arrachés, hein. Bon, je vais passer la scène en quatre gendarmes, comme je vous l'ai dit, deux éducateurs. Les enfants étaient placés d'abord en foyer, 3 mois et demi. Voilà, faut vraiment que je m'humidifie la bouche. Je te laisse le micro. Je mets de l'eau sur mes lèvres et
hop,
je reviens.
Hop là, donc on va, voilà, désolé.
Je ne sais pas si les gens ont bien compris ce qui se passe au décès de son papa, Jean-Philippe, pardon.
En fait, au décès de son papa, donc en fait, elle récupère ce qu'on appelle un capital décès. Donc c'est un voilà, et elle est en train de mener un projet d'achat de maison. Donc, mais le père de Samuel, pour accélérer les choses, parce que ça ne va pas, le travail de destruction ne va pas assez vite à son goût, pour vraiment déclencher les hostilités et le fait qu'on vienne prendre les enfants, dit, mais en plus, je pense qu'elle envisage de quitter le territoire, de partir. Sauf que, comme le disait Karine, voilà, ça n'allait pas assez vite. Le travail de destruction n'était pas assez rapide. Il a alerté à tout va. Et pour vraiment déclencher les hostilités, mais contre Karine, il dit, ben, je pense qu'elle envisage de quitter le pays. C'est écrit dans le rapport. Et sans vérifier quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que les services sociaux déclenchent et 4 gendarmes et 2 éducateurs. Viennent récupérer les enfants. Sauf que s'ils avaient essayé de faire un travail un tant soit peu objectif, ils auraient interrogé Karine et ils auraient vu tout de suite que quand on envisage de quitter le pays, on ne fait pas peu de temps avant agrandir sa boutique. Le jour même, on ne signe pas pour un crédit pour acheter une maison. Tous les indicateurs montraient, objectifs, factuels, montraient que ça n'était aucunement dans son intention. Mais en fait, il s'est passé là ce qu'il s'est passé pour les calomnies antérieures, c'est que comme ce monsieur, comme l'a précisé Karine, il était dans son village, la famille était implantée depuis pas mal de temps, la notoriété du papa colonel, etc., tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Et les services sociaux se sont empressés non seulement de prendre ces calomnies, mais de les amplifier. Voilà, et ben c'est là que malheureusement a débuté le calvaire pour Karine. Et les enfants. Allez, je lui repasse un peu le micro. On voit ensemble si ça devient, voilà, si elle peut poursuivre. Sinon, moi, je poursuis.
Ok. Donc, on en est donc au placement des enfants en urgence en foyer. Donc, ça a été 3 mois et demi. Donc là, on est en mai 2017 quand on prend les enfants. Ils ont été placés en foyer jusqu'en août 2017, donc 3 mois et demi au total. Le temps de terminer l'enquête et d'observer les enfants en foyer.
Pardonne-moi, Karine, le temps où ils sont en foyer, est-ce que tu peux les voir?
Alors, justement, oui. Donc, ils ont été placés de mai à août. Donc, au mois de juin, ça a été un week-end dans le mois. Et au mois de juillet et août, c'était une semaine pour chacun des parents. Donc, en plus, ce qui est incohérent avec le fait que j'allais partir à ce moment-là.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as pu les récupérer alors que tu étais sur le point de quitter le territoire pendant une semaine.
Pendant 10 ans. Voilà. Donc, oui, j'ai pris le droit de ceci. C'est très logique, tout à fait. Incohérent possible. Donc, puis sans services sociaux à la maison, etc. Ils ont même pas, c'était pas chez nous cette semaine-là. Incohérent total, on est d'accord. Ceci dit, je suis très contente d'avoir eu ces droits et d'avoir pu faire passer cette.
Mais bien sûr, j'imagine.
Le plus sereinement, entre guillemets, possible. Petit. Donc, d'ailleurs, j'en viens au final au terme de ces 3 mois et demi. Donc, il y a eu une MJE, donc mesure judiciaire d'investigation éducative, qui s'est résumée à un coup de téléphone de 3 minutes peut-être et à un seul rendez-vous au mois de juin, donc juste après qu'on m'ait pris les enfants, donc on vous prend les enfants, après il y a une audience dans les 15 jours obligatoire qui a été respectée dans mon cas, très peu de lois ont été respectées, donc celle-là l'a été. Et quand ils ont été replacés, donc au bout de 15 jours, et qu'on m'a dit bah, jusqu'à fin août, ils seront en foyer et on verra à l'issue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Voilà. Le rendez-vous a eu lieu juste après. Donc, en état de choc total, j'ai enregistré le rendez-vous puisque à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait faire des traces de tout et à quel point, ou autre. Donc, j'ai enregistré à ce rendez-vous très clairement, bah, encore choqué de la décision, hein. Et puis surtout, l'éducatrice qui avait demandé le placement m'a fait comprendre très clairement. J'ai fait écouter cet enregistrement à d'autres en me disant, est-ce que c'est moi qui comprends mal ou? Elle m'a laissé entendre que, en fin de mesure, les enfants allaient rentrer chez moi, peut-être avec une AEMO, mais elle m'a en plus, elle a endormi, on va dire, quelque part, un peu ma vigilance. Voilà. Pour moi, il pouvait pas en être autrement que le retour des enfants. Donc, au terme de ces 3 mois et demi, et de cette enquête qui se résume donc à un pauvre rendez-vous et un petit coup de fil de 3 minutes, donc, il y a eu des motifs de danger qui ont été écrits noir sur blanc. Motif de danger potentiel, je crois. Donc, c'était très clair, hein, pour mon fils aîné, un peu trop renfermé sur lui-même. Pour mon fils cadet, hyper adaptable au foyer. Donc, c'était aussi un motif de danger, l'inverse de son frère. Un vaccin de retard pour le petit, sachant quand même que le vaccin de retard, ils ont eu le même problème au foyer quand ils ont voulu le faire vacciner. Il était un petit peu enroué, le petit. Donc, le docteur a dit, ce vaccin n'a rien d'urgent, on va attendre que le petit... Donc un vaccin de retard, par ailleurs un suivi médical tout à fait régulier, et les enfants en très bonne santé comme acté par carnet de santé, le dossier médical, etc. Noah aurait des problèmes alimentaires importants, donc Noah, je précise qu'il avait un développement staturo-pondéral normal, et que surtout, voilà, il n'avait pas trop envie de manger de légumes, un peu comme tous les enfants, et puis... Par bonheur, mais bon, ça ne sert à rien, puisque j'ai vous retranscrire les enregistrements et les fournir à la justice. Il y a quand même des éducatrices au foyer qui me disent par téléphone, non, mais ça va, il n'a pas trop de problèmes alimentaires, faut pas exagérer non plus. Puis il n'est pas si renfermé sur ça que ça sur lui, donc ça c'est rigolo, hein, d'avoir la version officielle. Et puis,
enfin, excuse-moi de te couper, Karine, mais n'importe quel enfant coupé de sa mère pourrait vraiment faire une dépression, effectivement. Et je crois que c'est quand même quelque chose de logique et d'humain, en fait, hein, qu'un enfant puisse se replier sur lui-même. J'en profite juste pour glisser, d'ailleurs, aux services sociaux qui nous écouteraient, qu'en fait, aujourd'hui, il y a une jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus d'être placée. Je tiens à le préciser. Excuse-moi de t'avoir coupé, Karine.
Pas de problème. Oui, c'est important de le préciser. Au moins, là, on le sait, parce qu'il y en a régulièrement ce genre de suicide et on ne le sait pas toujours. Exactement. Oui, on a eu l'information aussi, évidemment, comment ne pas être effondré devant ce genre, une jeune fille qui demandait qu'à rentrer chez elle.
Atroce.
Elle allait partir pour abréger ses souffrances en foyer, famille d'accueil, je ne sais
pas. Exactement. Donc, qu'un enfant puisse être plié sur lui-même en foyer quand on vient de le retirer à sa mère, oui, ça me paraît, mais tellement évident. Je ne sais pas où ils font leur psychologie, en fait, je me demande.
Effectivement. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, entre guillemets, puisque quand vous lisez ça, vous savez pas si vous avez envie de rire ou de pleurer. Mon fils aîné, que je n'avais pas revu depuis qu'il avait été arraché de chez moi, c'est écrit dans le rapport que lorsqu'il a appris au bout de 15 jours qu'il était placé encore pour 3 mois, il a répondu, c'est écrit dans le rapport, je vais arrêter de manger pour que la juge change d'avis. Voilà ce qu'a dit mon fils de 7 ans et demi. C'est horrible à lire. Voilà. Donc, ça doit être de famille, la grève de la faim, apparemment, pour essayer de se faire entendre.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, voilà, il y avait aussi comme motif de danger retenu que Noah avait des préoccupations d'adulte pour son frère. Alors, lesquelles? Est-ce qu'il a bien mangé? est-ce que mon petit frère a bien dormi? Et est-ce qu'il y a bien son petit doudou dans le sac pour aller passer le week-end chez maman? Voilà ce qui est des préoccupations d'adultes pour un grand frère, pour un petit frère. Moi, j'appelle ça la fraternité, en fait. Voilà, et surtout, ouais, ce que j'allais dire, et surtout comment ça peut devenir un motif de danger. C'est incroyable.
Ouais, ouais, mais vous, tu sais, on a des, moi, j'ai beaucoup de témoignages, hein, parce que j'ai beaucoup dénoncé les placements abusifs, mais j'ai beaucoup de témoignages de mamans à qui on a reproché d'être trop maternelles.
Bien sûr.
Donc, c'est complètement logique par ces gens-là. Je sais pas s'ils ont des enfants et je sais pas comment ils les éduquent, en fait. J'aimerais que quelqu'un me donne la règle, si tu veux, pour éduquer les enfants, parce que si être trop maternelle, c'est un danger, ne pas l'être, c'est un danger encore plus grand, croyez-moi.
Et surtout, même si c'était un motif de danger, soit dit entre nous, le meilleur moyen de traumatiser un enfant qui a une mère trop maternelle, arrache-le à sa mère. Mmh. On pourrait peut-être travailler la relation.
C'est ça. Etc. On sait notamment que dans le cas d'enfants maltraités, très maltraités, et il y en a, faut qu'on le dise aussi, évidemment. Bien sûr, on sait que les enfants, quand vous les enlevez, hurlent. Même maltraités, ils veulent pas qu'on les sépare de leurs parents. Alors, a fortiori, quand ils ne sont pas du tout maltraités, mais quel dégât dans la tête d'un enfant, quel dégât.
Mon fils aîné qui espère toujours rentrer, mais qui m'a dit, en fait, je continue d'espérer, mais j'y crois plus, puisque tous les ans, on me replace. Il m'a dit, bah, si je rentre, on n'y pensera plus, mais on n'oubliera jamais. Voilà ce qu'était sa phrase. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'y croit plus. Il me dit, je continue d'espérer, mais j'y crois plus. Voilà. Bon.
C'est aussi une des raisons de l'action.
Oui, c'est aussi une des raisons d'action, évidemment. De pouvoir lui dire que j'ai tout tenté pour me faire entendre et puis que, comme je l'espère en dernier recours, si vraiment il devait m'arriver quelque chose, ce que je n'espère pas, soit des...
Ah, d'accord.
Ça serait bien qu'elle
me dise. Ah, il y a un problème ?
Non, c'est que mon mari me dit que une de mes modératrices a envoyé un mail à France 3 Nîmes. Voilà.
Merci.
Pour signaler la situation. D'ailleurs, j'interpelle tous les internautes, on est 660, j'interpelle tous les internautes qui sont là hein, d'écrire, de faire des mails, partout où vous le pourrez, parce que ça peut être un bon moyen de pression, de dire que ben, vous êtes au courant de ce qui se passe, de partager ce live maintenant, d'urgence, partout où vous le pourrez aussi, pour faire pression, parce que on s'arrêtera pas, hein, on va continuer à prendre des nouvelles de Karine, on va continuer, quoi. Et je crois qu'il y a Vécu qui va te relayer aussi, et d'autres vont venir, j'en suis sûre.
Ça a déjà été fait, c'est gentil. En tout cas, merci. On n'a pas le temps de remercier tout le monde. On le fera en temps voulu, mais évidemment que sans tout ce soutien, cette action, elle serait vaine. Hein. Donc, évidemment que c'est essentiel. Hein. Donc, c'est un combat qui se mène. Voilà, ensemble, quoi.
Ensemble. Donc,
effectivement. Et effectivement, vous pouvez écrire soit au tribunal de Nîmes pour ce qui concerne Noah, soit au tribunal de Mende. Alors, Mende, c'est la capitale de la Lozère. Pour ce qui concerne Samuel et pour ce qui concerne aussi Noah, puisque c'est le tribunal qui a l'initiative de l'arrachage de mes enfants en 2017. Voilà.
Donc, alors, pas, excuse-moi, Karine J, je vais vous répondre. Vous mettez, j'ai plus de mots, mais tellement mal. Elle n'a pas été assez vigilante. Elle aurait dû enregistrer les appels. Elle vient de vous dire qu'elle avait enregistré énormément de choses dont le tribunal se fout royalement.
Exactement. Oui, alors j'ai pas enregistré dès le début, mais dès l'arrachage de mes enfants et quelques fois avant, je me disais quand même quelques appels avec les gendarmes ou autres, parce que je me disais quand même, je pensais pas m'en servir en justice, mais je me suis dit au moins pour convaincre l'entourage. Et je sentais que j'étais loin d'imaginer tout ça. Et effectivement, ensuite j'ai enregistré systématiquement. Alors c'est, je sais pas combien de centaines d'heures j'ai d'enregistrement, hein, c'est incroyable, mais j'ai tout enregistré, du simple appel téléphonique au rendez-vous, tout est enregistré, bien sûr. Ça, c'est le conseil qu'il faut vraiment donner.
Oui, vas-y, pardon.
Conseil à donner, moi, je regrette de n'avoir pas enregistré dès le début, hein, parce que tous ces petits rendez-vous, ces petites pressions des pairs, des services sociaux en amont du placement, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sans enregistrement, et ça, c'est vraiment le conseil numéro un. Alors, c'est pas le seul, ça suffit pas, mais ça peut vraiment, voilà, si on fait ça dès le début et qu'on peut démonter le placement dès le premier jour, c'est vraiment des preuves précieuses, hein, des preuves. Et puis ensuite, dans un second temps, pour la postérité, parce qu'un jour, il faudra bien que ce système explose et qu'on rende des comptes. Et quelles autres preuves que les enregistrements d'audience, et je l'assume, ça, hein, d'avoir enregistré les audiences. Je ne les ai pas encore diffusées, donc je ne suis passible de rien. Ceci dit, si j'en venais à décéder, d'autres personnes à l'étranger ont déjà tout ce qu'il faut dans les starting blocks pour les diffuser. Donc, est-ce que ce qui s'est passé à huis clos sera assumé au grand jour à chacun de décider? Mais effectivement, et ne serait-ce que pour la postérité un jour, il faudra vraiment qu'on puisse entendre, même si c'est dans 10, 20, 30 ans, ce qui est vraiment une audience du juge des enfants, comment ça se passe, et puis la différence entre l'audience et après le PV d'audience et le jugement. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Hein.
Voilà. C'est clair, et on a énormément de témoignages, je le redis. Karine est quelque part aujourd'hui le porte-parole de toutes ces mamans, bien malgré elle, mais en fait, il faut bien comprendre que tous les parents actuellement à qui on a pris les enfants vivent cette horreur. Je parle pas de des fois où il y a de la maltraitance, bien sûr, ça existe, mais je pense qu'on devrait, l'aide sociale à l'enfance devrait être là pour aider les parents qui justement ont besoin d'aide à un moment de leur vie, parce qu'il se peut très bien que parfois on ait une dépression suite à un décès, un divorce, il peut se passer tellement de choses dans la vie. Donc, je pense que enlever les enfants en priorité au lieu d'être, vous devriez pas vous appeler l'aide sociale à l'enfance. Vous devriez pas vous appeler comme ça. C'est un mensonge à la base.
Bien sûr. Alors après, il y a des cas. Alors moi, le dernier motif quand même, le coup du spectacle, c'était le conflit parental. Madame est trop centrée sur le conflit. Vous avez un père qui vous harcèle quasiment jour et nuit, que vous essayez de vous en défaire, mais madame est centrée sur le conflit parental. Donc, on va placer les enfants chez leur père. Et ensuite, il y en a un qui fait finir en foyer, qui est toujours. Mais on est sûr que les pères sauront respecter la place de la maman. Ensuite, ils m'ont broyé, ils m'ont coupé de mes enfants. Mais bon, voilà, c'était madame, elle est trop dans le conflit. Alors, c'était pas moi qui étais accusée d'être dans le... Enfin, en gros, mes pensées étaient tellement concentrées sur le conflit parental que je n'arrivais plus à avoir le bien-être de l'Iran quand on voit.
Donc voilà, ça, c'est toujours ce qui est mis en avant, hein, le conflit d'aliénation parentale. Soit c'est la mère qui veut, parce qu'elle dépose plainte pour tel ou tel fait, parlons de l'inceste, on en parle beaucoup, mais on peut parler de. Et à chaque fois que. Il y a, on oppose le conflit d'aliénation parentale ou le conflit parental. Et bizarrement, ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que là, le conflit parental, ce n'est que la maman, c'est pas le papa du tout.
C'est excellent. Et puis, oui, ça, c'est excellent. Et puis surtout qu'à aucun moment, ils ont fait quoi que ce soit pour essayer de dialoguer, de dire, mettre les deux parents. Voilà, vous avez un enfant placé, il est en foyer. Maintenant, son avenir est entre vos mains. Est-ce que vous allez continuer à vous quereller, vous tirer la couverture? Chacun vers soi, ou est-ce que quel avenir vous voulez pour votre enfant? Il y avait des mots simples à trouver. Alors pour l'un des pères, ça n'aurait pas marché, mais pour le père de Noah, clairement, ça aurait pu marcher. Ils ont exacerbé ce conflit.
Est-ce qu'il y a eu une expertise psychiatrique qui a été demandée lors de toutes ces procédures, Karine?
Alors, je vais parler de celle de Noah, et après, il va falloir que je prenne un chewing-gum, un truc, j'en peux plus. Il faut que je me fasse saliver, ça devient trop difficile. Alors, il y a eu d'abord une expertise pédopsychiatrique de Noah, qui a été faite dans les jours suivants son arrachage à domicile, dans les 2-3 semaines. Donc, je n'avais pas revu mon enfant. Un week-end, je crois. Ils m'ont ramené chez moi. Merci. Et donc, cette expertise a été très claire, qu'il n'y avait pas de souffrance psycho-affective chez mon fils, que la place des pères et des beaux-pères était respectée dans son discours. Donc, pour une maman qui est censée être dans le conflit, en attendant, j'en ai préparé mon fils. Qui était soupçonné d'être précoce en plus, donc il avait un très bon niveau de langagier, qui s'exprimait en son propre nom et que ce n'est pas le plaquage du discours d'adulte, c'était quand même assez clair. Donc lui aimait sa vie avec sa maman, voulait rentrer chez sa maman, voir son papa évidemment. Et ensuite il y a eu l'expertise psychiatrique des parents, donc de moi-même et du père de Samuel. Le père de Noah en était épargné. Alors ce qui est très clair aussi, c'est que l'ordonnance qui a ordonné cette expertise psychiatrique de 2 parents sur 3. Dedans, c'était marqué en gros, on expertise les deux parents, mais on attend le résultat de l'expertise de la mère pour comprendre l'origine des dysfonctionnements familiaux. Donc, j'ai envie de vous dire, déjà, la réponse était dans la question. Voilà, donc il y a eu une première expertise. Donc, peut-être Jean-Philippe, là, je commence à avoir besoin d'une petite pause, mais je vais acquiescer ou pas, parce que je crois qu'il la connaît bien. Il y a eu cette expertise, une première qui a été très mauvaise pour moi. Voilà, et il y en a eu une seconde en 2019 qui était bien, bien meilleure et puis qui ne relevait aucune pathologie d'ordre psychiatrique ou autre. Et bien, bizarrement, encore aujourd'hui, donc 3-4 ans après, on m'oppose toujours la première qui est mauvaise, qui a été plus que démontée tant sur le fond que sur la forme, avec notamment les fameuses photos dont on vous parlera, qui ont été produites à l'expert. Donc, le père a produit des pièces, enfin, c'était un carnage, cette expertise. Et la deuxième, par contre, qui est bien meilleure, eh ben, on l'a cachée sous le tapis et on m'oppose toujours la première. Mais rappelez-vous, en 2017, madame. Voilà, donc Jean-Philippe va peut-être...
Ça, c'est intéressant parce que j'ai contacté moi récemment le confrère qui a produit la première expertise. Et voilà, diagnostic dont l'auteur même, en fait, un syndrome, le psychiatre qui avait même évoqué l'existence de ce syndrome, l'avait évoqué sur un mode hypothétique. Il se peut que ce syndrome existe, mais pour poser ce diagnostic, il faut un long période de temps, étudier le sujet de façon prolongée, etc. Là, mon confrère, brillant, a porté ce diagnostic à l'issue d'une seule expertise. Et en fait, en 2 heures, en fait. Et cette expertise, c'est intéressant parce que je reviendrai sur l'échange que j'ai eu avec ce confrère par mail. Donc, c'est intéressant parce que, donc, bien évidemment, l'expert devait expertiser Karine et le père de Samuel, Monsieur Durand. Et en fait, Karine, elle a joué le jeu. C'est-à-dire, pour montrer qu'elle n'était pas dans le conflit, et ben, quand on lui posait des questions qui la concernaient, elle répondait sur elle. Voilà. Donc, et Monsieur Durand, lui, quand on lui posait des questions qui pouvaient être un peu gênantes, et c'est intéressant de voir que de façon quasi systématique, il parle de Karine. Donc, lui est responsable de rien, Karine est responsable de tout. Et le pire, c'est qu'il a produit pendant cette expertise, d'ailleurs, dans ses conclusions, l'expert lui-même dit qu'il s'est basé pour analyser l'expertise de Karine, il s'est basé sur le propos du père, de Monsieur Durand. Il a écrit.
Mais pas l'inverse,
par contre. Et en plus, dans les procédures, avant de produire l'expertise, normalement, l'expert est censé la soumettre à la personne qui l'a expertisée, de façon à ce qu'elle puisse lui faire part de ses remarques, dont il peut tenir compte ou pas, d'ailleurs, mais qu'il est censé acter dans le dossier, en disant, voilà, j'ai produit l'expertise à Madame Trapp, elle a souhaité me faire telle et telle remarque, j'ai peut-être pris compte de celle-ci, mais pas des autres, etc. Et dans ce cas-là, si l'expert avait fait son travail correctement, parce que c'est répréhensible, ce qu'il a fait est répréhensible, eh bien, en fait, Karine aurait vu que M. Durand, dans le cas de l'expertise, a produit des pièces, des photos. Et je vais faire une petite digression pour que vous compreniez ce que sont exactement ces photos. Quand elle s'est séparée du père de Samuel, donc M. Durand, en 2017, 16, pardon, exactement, elle avait en fait porté plainte contre lui pour violence. Il faut savoir que ce monsieur l'avait agressé plusieurs fois, et la dernière fois, à 2 reprises dans la journée, il s'était introduit chez elle, et la seconde fois, c'était à minuit, mais c'était une violation de domicile, et il l'avait immobilisé de longues minutes sur le canapé. Donc, Karine avait subi cette immobilisation, et puis lorsqu'elle avait réussi à dégager un bras, elle lui avait donné un coup sur l'arcade, donc lui avait fait un petit cocard. Voilà. Très bien. Et voilà. Et il y avait un SMS envoyé par lui le lendemain qui disait qu'il avait un cocard. Sauf que ce monsieur, donc. Voilà. Et puis en amont de ça, il y avait des SMS de Karine lui disant non, je veux pas que tu viennes chez moi. C'est chez moi. Je veux plus que tu viennes chez moi. Donc, c'était une violation de domicile. Voilà. Et le coup qu'avait donné Karine en droit français, ça s'appelle légitime défense. Voilà, elle avait été agressée chez elle par quelqu'un qui avait violé son domicile à minuit quand même, et donc elle s'était Ceci étant, voilà, lorsque lui a été auditionné, donc en rapport avec la plainte que Karine avait déposée contre lui, il a produit des photos où il présentait un visage tuméfié, des bandes qu'on appelle ecchymotiques sur le crâne. Il a dit non, regardez pas du tout. C'est pas moi qui l'ai battue. Regardez ce qu'elle m'a fait. Et il a porté plainte contre elle. Et en violation de toutes les procédures judiciaires habituelles, ces photos n'ont pas été expertisées. Lui n'a produit aucun certificat de coups et blessures. Les photos n'étaient pas datées. Mais comme c'était Monsieur Durand et que les gendarmes écoutaient Monsieur Durand, ces photos se sont retrouvées dans le dossier. Et de son statut de plaignante, Karine s'est retrouvée mise en cause, accusée de violence contre ce monsieur, ancien maçon, ancien parachutiste, qui fait peut-être entre 70 et 75 kilos. Karine en faisait 52 ou 53 à l'époque. Voilà. Et donc, elle a été jugée. Alors, en première instance, elle a été jugée par le tribunal de Mende, celui-là même qui avait produit, jugé au civil. Elle a été condamnée. Alors, pour l'anecdote, le 6 mai, donc ça, c'était le 9 mai.
Ah oui, excuse-moi, il y a quelqu'un qui met dans le chat. Pardonnez-moi si je vous coupe de temps en temps pour répondre aux gens. C'est Jean-Claude qui nous dit « J'ignorais que de telles situations si injustes existaient. » Merci pour ce live. Alors, sachez bien que ça existe partout, partout en France. Karine n'est malheureusement pas la seule. On aimerait, hein, mais on aimerait beaucoup. Mais sachez qu'il y a plus de 600 000 enfants placés, dont plus des trois quarts sont placés abusivement. Merci Jean-Philippe, excuse-moi.
Ça commence souvent par...
En France, oui, en France, évidemment.
Alors là, c'est ce que j'appelle la double peine, et puis je reviendrai sur les photos. La double peine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une maman se sépare de son conjoint, parce que parfois il est violent. Bien heureusement, il y a des conjoints adorables et qui sont de bons, voilà, de bons papas, mais il y a des conjoints qui malheureusement maltraitent. Et c'est la double peine, c'est-à-dire que quand il y a cette séparation, les services sociaux vont intervenir, et souvent c'est un moyen de rétorsion de la part des papas. En fait, ben, puisque c'est comme ça, tu vas le payer, et la meilleure façon de faire payer une maman, c'est de faire en sorte qu'elle se retrouve privée de ses enfants. Et quand les services sociaux interviennent, ils vont le faire avec une brutalité déconcertante, et là c'est ce qui est arrivé pour Karine. Elle s'est retrouvée privée de ses enfants. Donc j'en reviens.
On a vu les photos, on pourrait revenir après, mais là on était, savoir que ces photos, voilà, on n'est jamais vu. Et que ça a contribué à faire écrire à l'expert que la mère avait un sacré problème et que le père, le pauvre, était victime.
Voilà, mais peut-être quand même, si, c'est intéressant, je pense. Voilà, ouais. Mais c'est intéressant peut-être rapidement, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre pourquoi ces photos avaient un rôle important. Donc, jugé en première instance, jugé en deuxième instance, et ces photos, jamais, ni en première instance, ni en deuxième instance, n'ont été expertisées. Voilà, et moi, après donc le jugement d'appel, j'ai fait ce que la justice aurait dû faire en amont, mais elle n'a pas souhaité faire son travail, c'est que j'ai demandé à deux confrères que je ne connaissais pas, experts, médecins légistes, experts près de la cour d'appel, d'expertiser les photos. Donc, ils avaient d'un côté, je leur avais remis les déclarations du monsieur, ce qu'il avait communiqué, pour expliquer qu'il avait été victime de violence, et les photos. Et je leur ai posé deux questions toutes simples. Est-ce que les déclarations de ce monsieur sont concordantes avec les lésions qu'il présente sur les photos? Un. Et deux, d'après vous, quelles peuvent être les causes des lésions présentées par le monsieur? À la première question, les deux experts ont répondu de façon formelle, non, il y a une totale discordance entre les allégations de ce monsieur et les photos qu'il produit. Donc, on peut dire qu'il ment, il a menti. Et deuxièmement, concernant les circonstances qui avaient pu, les causes qui avaient pu produire ces lésions, le premier expert a été affirmatif, il a dit ce monsieur s'est auto-mutilé. C'est-à-dire qu'il avait déjà dans le passé menacé Karine de se cogner la tête contre un panneau et de dire qu'elle l'avait battu, eh bien, il l'a fait. C'est-à-dire, quand il a été auditionné à la gendarmerie et qu'il a produit ses photos, ses lésions, il se les était lui-même infligées. On voit bien, si vous voulez, trois bandes sur le dessus du crâne qui correspondent parallèles, qui correspondent très clairement aux grilles contre lesquelles il est allé se heurter violemment, lui, la tête. Et le deuxième expert, s'agissant de ses photos, dit il est fortement probable qu'il se soit infliger lui-même ses blessures en se cognant la tête contre des barreaux verticaux, etc., ce qu'on appelle une grille.
Voilà. Un grand malade, en fait, hein, clairement, un grand malade. Malade, hein, quand même,
un grand malade. D'accord. Et quand il a été expertisé, il a, à l'insu de Karine, et on en revient à l'expertise psychiatrique dont parlait Karine il y a un instant, celle qui avait conclu à l'existence de troubles mentaux en 2017, il a produit ses photos en disant « Regardez, elle est capable de péter les plombs, regardez dans quel état elle m'a mis. » Et l'expert le dit lui-même, il a conduit, en tout cas, il a rédigé ses conclusions concernant l'expertise de Karine en se basant sur les allégations de M. Durand et bien évidemment sur les photos qu'il avait produites. Et Karine ignorait, parce que sinon elle aurait répondu en lui disant « Mais non, 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 moi j'ai jamais mis ce monsieur dans cet état. » Voilà, donc ça c'est la première expertise. Donc, qui était négative, puisqu'elle concluait, je vous le disais, à cette existence de paranoïa sensitive. Voilà, un diagnostic farfelu. Mon confrère était certainement très content de lui, sauf que moi, quand je l'ai appelé en lui disant « Cher confrère, vous avez conclu donc cette expertise, alors je veux quand même vous rappeler que vous avez violé la procédure parce que vous auriez dû soumettre vos conclusions d'abord à Karine avant de les produire devant la justice. » Et puis, vous dites vous-même que vous êtes basé sur les allégations de M. Durand. Alors, je vous prie de retrouver 6 juin deux expertises qui attestent que ce monsieur s'est blessé lui-même. Donc, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de corriger votre erreur parce que, comme le disait Karine il y a un instant, il y a eu une deuxième expertise conduite
par le chef de service du premier, qui conclut à l'absence totale de troubles mentaux. Mais c'est surprenant, chaque fois que la justice doit sortir une expertise, ça n'est pas la deuxième qui dit que Karine n'a aucun trouble mental, c'est régulièrement la première qui dit qu'elle a cette paranoïa sensitive.
Alors, pour que les gens comprennent, il faut qu'on explique que il y a des gens rattachés aux tribunaux, des experts psychiatriques sont rattachés aux tribunaux, et que donc ça favorise les amitiés quand même. Ça, il faut qu'on le dise. Et bien puis, sûr. Je voulais dire autre chose que j'ai perdu. Ah oui, c'est que quand je vois Karine, que je ne connais que pour avoir parlé cet après-midi un petit peu avec vous, je me dis quand même qu'il faut avoir un solide mental pour pas péter les plombs quand on entend ce que l'on est en train d'entendre et qu'on puisse oser dire avec ce qu'elle vit depuis 4 ans que peut-être elle pourrait quand même avoir une petite déprime ou une petite dépression. Moi, je pense qu'il y en a qui auraient pris le bazooka déjà depuis un certain temps et peut-être que parfois on se dit que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on nous entende quand même. Alors, évidemment, j'appelle pas à la guerre, à quoi que ce soit, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça voudrait dire par là qu'on est justement extrêmement équilibré de rester calme et courtois comme vous l'êtes.
C'est l'amour maternel, ça.
Bien sûr,
Exactement, exactement. Mais c'est vrai.
Mais on arrive à des telles choses, en fait. C'est que comment peut-on dire, quand on vous arrache vos enfants, que la personne, oh, elle serait peut-être quand même un petit peu énervée, quand même, ouais. Mais qui ne serait pas énervée? Mais en fait, on n'est pas dans une société normale. On devrait avoir une réaction. La réaction normale, c'est d'aller les chercher, nos enfants, de les récupérer, en fait. C'est ça, la réaction normale.
Oui, mais certaines sont en prison en ce moment même pour avoir fait ça. Hein.
Oui, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, parce que si on revient, donc vous l'avez compris, en correctionnel, il y avait un sérieux problème. Et d'ailleurs, ce monsieur maintenant fait l'objet d'une plainte pénale pour escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse et usage de faux. Voilà, donc ça, c'est important. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra rendre disponible, parce que d'ailleurs, ça peut aider d'autres mamans, on pourra rendre disponible l'enregistrement qui a été fait par l'avocat qui porte cette plainte aujourd'hui au pénal et qui connaît très bien ce qu'on appelle les pervers narcissiques, c'est-à-dire ces gens qui sont des manipulateurs, qui vont détruire une femme à son insu. Et il y a des femmes aussi, perverses, manipulatrices, c'est vrai. Voilà, mais souvent, ce sont plutôt des hommes. Et le travail de destruction et de sape qu'ils peuvent faire et qui vont vraiment anéantir les mamans. Voilà.
C'est ça. C'est donc, ça. Il faut vraiment que les gens comprennent ce qu'est la perversion narcissique et qu'on est… c'est un peu ce qu'on vit dans ce pays d'ailleurs, hein, faut quand même qu'on le dise aussi, c'est-à-dire qu'on est dans l'inversion accusatoire perpétuellement et que comme ils anticipent tout parce qu'ils ont 20 coups d'avance, c'est très difficile de se défendre parce que vous retrouvez mis dans une situation où vous ne pouviez pas imaginer qu'il allait annoncer, enfin, il va retourner contre vous ce qu'il est en fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Puis alors, ils ont une manière de s'y prendre qui, j'avoue, est quand même excellente.
Et pour revenir au constat que vous faisiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on échange avec Karine, on a plutôt immédiatement le sentiment, ou en tout cas sur le court laps de temps, qu'on a plutôt quelqu'un de remarquablement équilibré. Moi, je l'ai écrit déjà à de nombreux magistrats. Quand je vois le travail de sape et de destruction que vous avez fait, il faut vraiment que ma conjointe soit vraiment solide pour résister à tout ça, à autant d'injustices, à autant de brutalité de la part du système. Il faut qu'elle soit vraiment très, très, très solide. Voilà.
Elle a un mental plus que solide pour pouvoir résister à tout ce à quoi elle a dû faire face. C'est évident, mais alors vraiment évident.
Avec quelques rencontres comme tout le monde, parce qu'en étant isolé, et voilà, c'est pas pareil que d'avoir un conjoint à ses côtés ou d'avoir une famille, ce qui n'est pas mon cas forcément, ou quelques amis.
Ok, donc aujourd'hui, est-ce que vous avez fini vos explications par rapport à l'histoire de Noah et de Samuel?
Ouais, on va faire vite. Alors, on a testé cette expertise psychiatrique pendant que les petits étaient 3 mois et demi.
Non, c'est pas pour aller faire vite, c'est parce que je voulais amener des chiffres, en fait. Donc,
Du coup, à l'issue de cette expertise psychiatrique, cette soi-disant MJE qui a été bâclée en un rendez-vous et un coup de fil de 3 minutes, on arrive fin août 2017 où on nous sort ces motifs de danger, là, trop adaptable, pas assez adaptable, vaccin de retard, conflit parental. Là arrive une audience, je n'ai jamais vu le dossier, la greffière était malade. Et ça, c'est acté aussi dans le jugement. La juge me dit, alors vous n'avez pas pu voir le dossier, bon, bah, c'est dommage, je vais vous lire vite fait les conclusions, puis on va passer au délibéré. Hein. Donc là, mes deux enfants ont placé chacun chez leur père. J'ai vu le dossier 2-3 mois après via une avocate, je suis tombée de très très haut évidemment. des DVH dans un endroit de visite et d'hébergement dans un premier temps pour moi sur mes deux enfants, donc sachant qu'ils ont été placés quand même à 950 km aller-retour l'un de l'autre. Donc à commencer le Tour de France là, on va dire, je sais pas de combien de centaines de milliers de kilomètres j'ai fait depuis 4 ans, mais c'est assez hallucinant. Au bout de 3 mois et quelques, encore un rapport mensonger, on m'a coupé toutes mes visites, donc j'ai fini aux fameuses visites médiatisées hein, que beaucoup doivent connaître, les visites par Loire. Et puis mon fils, bon après on pourra parler tout à l'heure, mais bon au final la situation aujourd'hui c'est que Samuel est resté chez son papa, le petit, donc le papa c'est celui dont on parle depuis tout à l'heure, hein, qui a produit des fausses photos, alerté à tout va. Donc lui, bah, il a le petit depuis 3 ans et il essaye de couper le lien, mais il n'arrive pas vraiment.
Est-ce que lui, il a un suivi par l'ASE, justement, quand même, avec tout ce que tu dénonces de cet homme?
Alors, il a un suivi à EMO, ce qu'on appelle l'action éducative en milieu ouvert. Donc, les éducateurs l'adorent. Hein. D'ailleurs, alors en off, on me dit, mais il n'est pas net, ce papa, il nous appelle tous les jours, il se plaint de vous. On a bien compris qu'on n'est pas dupes quand même, hein. Et puis arrive le jour de l'audience, mais ce papa est super et cette maman, bon, elle est polie, elle est gentille, mais elle est pas nette. Hein. D'ailleurs, regardez l'expertise psychiatrique, toujours la même.
Et tu donc, as les enregistrements de cette personne qui t'appelle pour dire que le papa est pas net. Tu as les enregistrements, j'imagine.
Oui, mais je les ai retranscrits. Oh, il n'y a plus de son. Ah. Il n'y a plus de son.
Si, je t'entends.
Il n'y a plus de son.
Si, ça y est, c'est bon, Karine. C'est qu'il y avait un retour, je ne sais pas, il y avait un retour.
Très bizarre.
Tu as encore du son là?
Non, il n'y a plus le micro.
C'est la
bon, on va finir. Et du coup, oui, j'ai l'enregistrement, donc j'ai 0 transcrit, fourni au procureur de Mende et à la juge des enfants. Retranscrit des ordres de transcription, mais.
Attendez, on est coupé, on est censuré ou pas là?
Non, j'entends tout le monde.
T'entends tout le monde? Ouais. Ok, non, parce qu'on est beaucoup censurés, nous, on ne nous aime pas beaucoup.
Ok. Là, on a un petit souci technique, en fait, c'est que, donc ma voix va porter un peu plus, c'est que je crois qu'il y a un petit souci avec le micro qui fonctionne. On va voir si on peut nous aider à régler ça. On va voir si, dites-nous si vous entendez Karine néanmoins.
On entend tous très, très bien, Jean-Philippe, pas de problème.
Super, super.
On entend nous très bien.
Super.
On en était, bon ben voilà, donc oui il y a les enregistrements, retranscrits, ça m'a pris des heures, j'ai les enregistrements, la retranscription que j'ai fournie au procureur et à la juge des enfants, je sais pas ce qu'ils en ont fait, alors j'ai le double tamponné, hein, toutes les preuves, mais je sais pas, ça fait partie de mes bacs et des armoires de preuves, on sait pas, à part me faire gronder parce que j'ai enregistré et menacé de plaintes, qu'ils n'ont jamais porté d'ailleurs, voilà, c'est tout.
Mais de toute façon, je ne sais pas de quoi tu te plains. Enfin, vraiment, attends, tu menaces de plainte quand même, Karine. C'est très grave. On ne menace pas de plainte comme ça, des gens de l'ASE, des gens de… Non, non, c'est…
Alors moi, mais c'est ça. Pas menacé de plainte. Non, non.
Tous les gens.
C'est eux qui m'ont menacé de plainte. Moi, je n'ai fait que fournir les enregistrements au procureur, à la juge des enfants, en disant ça va leur suffire, ils vont me rendre mes gosses. Je ne l'ai jamais déposé, pas encore. C'est eux qui m'ont menacé de porter plainte pour avoir enregistré
J'avais compris, je te rassure, c'était une boutade pour bien faire comprendre aux gens ce qui se passe. Je voulais savoir, Jean-Philippe, je crois que tu as rencontré le procureur Éric Moral.
Je reviens dans deux petites minutes, merci.
Alors, j'ai rencontré effectivement le procureur, donc voilà, M. Morel, donc procureur de Nîmes. Hein, et ça a été un échange qui m'a semblé cordial, respectueux de part et d'autre. Donc, il m'a en fait fait part de son souci de recherche de la vérité. Il m'a communiqué que ce serait vraiment un échec, ou en tout cas extrêmement difficile pour la justice, pour lui et la justice, de se trouver confronté dans quelques années aux enfants de Karine qui viendraient dire à la justice qu'elle est passée totalement à côté. Qu'elle est passée à côté de la vérité, parce que bien évidemment, ça peut arriver si Karine conduit son action jusqu'à son terme et met sa vie en danger. Voilà. Donc, il m'a dit donc, eh bien, en fait, qu'il avait pris la décision de demander le réexamen de ce dossier par un magistrat d'un service compétent. Et voilà. Donc, il faut savoir, si vous voulez, concernant les mesures comme ça d'assistance éducative, que le juge des enfants en charge du dossier peut s'auto-saisir Ah, on va voir si… Ah, voilà, super, on a rétabli le son. Donc, le juge, c'est l'article, je crois, 375, alinéa 6 du Code civil. Le juge peut saisir, s'auto-saisir à tout moment ou il peut être saisi à la demande de l'enfant, d'un ou des parents et du ministère public. Donc, moi, ce que j'aurais souhaité que le procureur fasse, c'est qu'il, ben, puisqu'il en avait la possibilité, qu'il demande au juge des enfants de se ressaisir et que cette magistrate prononce en fait la levée du placement, puisqu'elle sait très bien…
Le procureur peut le faire, ça.
Le procureur, en fait, il est écrit dans l'article 375 qu'il peut demander au magistrat en charge de la mesure éducative de se saisir, c'est-à-dire de se repencher sur le dossier, bien évidemment, la finalité, éventuellement, de rendre un jugement ou une ordonnance différente, et en l'occurrence, là, la levée du placement, puisque c'est très clairement, s'agissant de Noah, ce que Karine demande. Et pour Samuel aussi, elle demande bien évidemment le retour à ses côtés. Et là, je ne sais pas très bien, en tout cas, je pensais que ça allait être fait rapidement, puisque bien évidemment, j'ai encore souligné auprès de Monsieur Morel l'extrême urgence de la situation, en lui rappelant, il le savait, que Karine était en grève de la soif, en grève de la faim depuis 18 jours ou 17 jours quand on s'est parlé. Et je lui ai donc, il savait que bien évidemment, il y avait une échéance, un compte à rebours qui avait commencé et une menace vitale pour Karine. Eh bien, en fait, le jeudi, plus de nouvelles. Le vendredi, plus de nouvelles. Et voilà. Et encore une fois, alors que la magistrale pouvait ordonner, prononcer la levée du placement. Et du coup, vendredi soir, moi, je suis allé dans le palais de justice déposer donc ce qu'on appelle un référé d'heure à heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que compte tenu de l'urgence, en l'occurrence la menace vitale pour Karine, la présidente du TGI pouvait se saisir du dossier en urgence et ordonner qu'il soit une mesure conservatoire soit prise, en l'occurrence le retour des enfants auprès de Karine, et puis voilà, le retour des enfants auprès de Karine, et puis à charge pour elle, puisque c'est une présidente, d'organiser dans un laps de temps une audience pour examiner le fond et statuer sur le fond. Eh bien, en fait, là, on m'a opposé le fait que non, ça n'allait pas être pris parce que il y avait un problème de forme, c'est-à-dire que normalement, c'est un avocat qui aurait dû déposer ce référé. Et puis, il aurait dû d'ailleurs préalablement demander l'autorisation à la présidente du TGI. Sauf que là, j'ai clairement expliqué qu'on était dans une situation d'extrême urgence. Voilà. Alors, on nous a dit que c'était pas vrai. Moi, j'ai regardé. Il semble que ce soit effectivement demandé. Maintenant, notre juriste nous a dit, mais là, il s'agissait d'une bonne administration de la justice en urgence et qu'il était possible de déroger éventuellement à la règle de représentation par un avocat. D'autant que j'ai quand même souhaité rappeler à mes interlocuteurs et interlocutrices, je mets de côté une dame qui a été très, très, très bienveillante et très humaine et qui s'est efforcée de contacter le secrétariat de la présidence et de faire en sorte que ce document soit pris en compte. Mais voilà, donc je disais que là, effectivement, la forme semblait revêtir une importance primordiale. Or, comme le rappelait Karine tout à l'heure, dans ses procédures à elle, la forme a été malmenée un grand nombre de fois sans que ça pose de problème à la justice, par contre. Voilà. Donc, ça, c'est quand même important de le souligner. Et donc, ben, mon référé, le référé de Karine, donc d'heure à heure, il est entre les murs du palais de justice. Des magistrats le savent que Karine est aujourd'hui à 4 jours et demi de grève de la soif, que lundi, elle en sera à son 6e ou 7e jour. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, une espérance de vie. Et si elle atteint ces 7 jours d'espérance de vie, elle fera partie de celles qui auront survécu le plus en grève de la soif. Voilà. Mais ça semble pas préoccuper les magistrats plus que ça. Monsieur Morel,
à ce propos, je voudrais dire quelque chose, Jean-Philippe, si tu veux bien me laisser quelques petites minutes. J'ai fait quelques recherches, moi, sur… le procureur Éric Morel, monsieur le procureur, vous avez eu une interview, monsieur le procureur, que sur Job IRL, c'est-à-dire In Real Life, c'est Thomas, qui est ce journaliste qui a écrit cet article avec vous, puisque vous répondez, je vous cite, hein, vous dites vous-même avoir passé 33 ans au sein de l'institution judiciaire, donc ça fait quand même une somme d'expérience, on peut considérer que vous êtes habitué, et vous avez fait l'École nationale de la magistrature, donc forcément, vous avez toutes les compétences nécessaires pour être au poste où vous êtes, sans pouvoir, en espérant évidemment dans une carrière, on peut se tromper, ça arrive, mais quand vous avez des parents comme ça qui débarquent dans votre cabinet et qui vous demandent un référé heure à heure, c'est quand même pas sans conséquence. Et vous dites vous-même, monsieur le procureur, vous, monsieur Morel, vous dites vous-même que, suite aux questions qui vous sont posées, que vous orientez au quotidien le travail des policiers, des gendarmes, parfois dans la minute qui suit, et lorsque vous êtes appelé sur une affaire importante. Sur Job IRL, ça a été cette interview du 16 novembre 2018, et je l'ai mis dans les liens. À la question « En quoi consiste le métier de procureur de la République ?», vous répondez sur le volet en ce qui concerne la justice, mais vous répondez aussi sur un autre volet qui est le domaine civil, et que c'est celui donc qui représente la société. Ensuite, à la question « Quelles sont les qualités requises ?», et là, vous répondez, je vous cite à nouveau, « Le goût de la décision rapide, monsieur le procureur. » Le goût de la décision rapide, c'est vous qui l'avez écrit. Et vous avez dit aussi « Dans l'urgence », là encore, c'est vous, j'ai mis le lien, les gens pourront lire. Vous avez dit aussi « Dans la minute qui suit ». Et vous avez répondu « Une capacité, il faut comme qualité, une capacité d'humanité ». C'est là où je suis étonnée parce que, en fait, ce sont des paroles magnifiques, mais dans la réalité, monsieur le procureur. Et donc, c'est là où, quelque part, Karine Trapp, actuellement, est en danger quand même de mort, on peut quand même le dire. Son compagnon est quand même médecin et est apte à vous dire quand même les dangers que représentent 20 jours de grève de la faim et 4 jours et demi de grève de la soif. Est-ce qu'il n'y aurait pas urgence, monsieur le procureur, à réagir? Je vous interpelle parce que je pense que réagir dans la minute qui suit, ça comprend que vous le fassiez puisque vous avez vu son compagnon jeudi, hein, c'est ça Jean-Philippe, je ne me trompe pas?
Oui, tout à fait, jeudi. On
jeudi,
pas
et
à la demande de M. Morel d'ailleurs, hein, qui voyait la manifestation, Karine a commencé sa grève de la soif le mardi 1er mars devant le palais de justice de Nîmes, et c'est à la demande de M. le procureur que je me suis entretenu avec lui, c'est exact.
Et donc, il y a quelque chose là-dedans qu'on ne comprend pas bien, c'est le manque de célérité dans ce dossier, en fait, parce que… Oui.
Non. La grève de la faim depuis le 1er mars et la grève de la soif devant le palais de justice le 16 mars. Pardon, le mardi 16 mars, grève de la soif devant le palais de justice de Nîmes. Désolé parce que Karine est en grève et je vous cache pas que depuis quelques semaines, on enchaîne, on dort très très peu en fait. Souvent, ce sont des nuits blanches. Voilà, donc non, 1er mars, grève de la faim et 16 mars, grève de la soif devant le palais de justice de Nîmes. Donc… pour établir la chronologie exacte des événements. C'est important.
Oui. Enfin, voilà. Moi, j'interpelle quand même le procureur parce que c'est lui que tu as rencontré et il a lui-même répondu à cette interview en disant que ce qui primait, c'était quand même le côté humain de son métier et on attend qu'il prouve ses paroles, en fait.
Exact. Vraiment, j'en profite pour interpeller à nouveau Monsieur Morel. Voilà, Monsieur Morel, vous l'avez compris. Ma compagne est en grève de la faim et de la soif. Elle est à la fois désespérée et on peut comprendre qu'on soit désespéré quand on se heurte à une institution qui vraiment brutalise, violente, et je pourrais expliquer pourquoi je dis ça, mais elle est déterminée aussi. Et d'ailleurs, je voudrais au passage souligner quand même quelque chose d'important. C'est que dès le départ, moi, j'ai tenté de dissuader Karine de faire cette grève de la faim. C'est important. Je lui ai dit, d'ailleurs, quand elle est rentrée dans ma vie, en avril 2020, et donc je la connaissais depuis quelque temps déjà, puisqu'en décembre 2018, déjà à l'occasion de sa première grève de la faim, sur les réseaux sociaux, des amis à elle cherchaient un médecin qui puisse intervenir à ses côtés, puisqu'elle était devant l'Assemblée nationale et qu'elle ne trouvait pas de médecin pour prescrire des bilans, pour la conseiller, etc. Donc, moi, j'ai répondu présent. Je lui ai prescrit des bilans, je l'ai suivi à distance, j'ai échangé avec elle. Donc, on se connaissait déjà depuis décembre 2018. Et puis, donc, elle est entrée, la vie nous a rapprochés. On a échangé à de nombreuses reprises à partir de décembre 2018. Et puis, la vie nous a rapprochés, puis c'est devenu ma compagne.
Voilà, donc, ah, excusez-moi, je suis, donc j'ai essayé de la dissuader à plusieurs, voilà, même je l'ai saoulé, c'est-à-dire, mais en même temps, dans le même temps, j'interpellais les magistrats. Je leur disais, s'il vous plaît, ah voilà, donc je disais en avril quand elle est rentrée dans ma vie, je lui ai dit, regarde, Karine, je te donne une promesse, c'est qu'en septembre, Noah et les enfants seront avec nous. Les enfants seront avec nous, parce que quand je regarde ce dossier, c'est tellement clair, c'est tellement évident de voir que tu as fait l'objet de calomnie de la part du père de Samuel quand tu as voulu te séparer, qu'il voulait te faire payer ça, que si je le réexpose clairement aux magistrats, ils vont dire, bah ouais, effectivement, on s'est fait piéger nous aussi, ils vont rendre les enfants. Eh bien non, j'ai eu beau leur écrire en étant toujours… Mes courriers sont sur le blog d'ailleurs, libérer Samuel et Noah avec le tiré du 6 entre chaque item.fr. Vous verrez un grand nombre des courriers que j'ai écrits. Eh bien non, ça les a pas interpellés, ils sont restés de marbre et ils ont persisté. Je leur disais pourtant… Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai perdu tout crédit pour dissuader Karine de faire la grève de la soif. Parce que je lui avais affirmé avec une conviction totale que j'allais l'aider à récupérer les enfants et j'ai échoué. J'ai échoué parce que j'ai des gens qui ont campé sur leur position, même si on leur démontrait, je leur ai démontré qu'ils s'étaient trompés. Alors parfois, certes, peut-être ont-ils été abusés par Monsieur Durand, dont on a vu à quel point il est manipulateur et suffisamment intelligent pour manipuler, et les experts et les magistrats, mais à aucun moment ils n'ont voulu revenir sur leur position. Voilà.
L'égo, sans doute.
Et les services sociaux non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Et quand j'ai échangé avec, j'écris au magistrat, vous êtes en train de détruire ma compagne et ses enfants. Vous la poussez au désespoir. Ce que vous lui infligez, c'est de la torture psychologique. Donc il va et elle me parle de refaire une grève de la soif, mais je n'aurai aucun moyen pour la dissuader. Je n'ai plus de crédit. Vous m'avez enlevé tout mon crédit. Et donc, Karine a décidé de son propre chef, et malgré mon avis, de conduire cette grève de la soif. Il faut savoir que moi, en tant que médecin, je suis lié par plusieurs choses. Je suis lié dans un premier temps par des directives anticipées. Karine, en pleine possession de ses facultés mentales, a rédigé des directives anticipées qui s'imposent à tout le monde. Et elle dit, quand je serai en grève de la faim et éventuellement de la soif, si je devais ne pas être entendu pendant les 15 premiers jours de ma grève de la faim, je ne veux pas être secouru. Je ne veux pas qu'on me réalimente. Je ne veux pas qu'on me réhydrate. Et ces directives anticipées font foi, elles priment sur toute autre chose. Et en plus, moi, en tant que médecin, je suis lié par l'article 1111-4 du Code de la santé publique qui dispose qu'un patient a le droit de refuser des soins. Et je suis également lié par ce qu'on appelle la déclaration 1111-4 du Code de la santé publique. Et je suis également lié par ce qu'on appelle la déclaration de Malte qui interdit aux médecins d'intervenir auprès des personnes qui font ce qu'on appelle un jeûne de protestation. Et clairement, c'est ce que fait Karine pour tenter d'être entendue, un jeûne de protestation. Mais j'allais dire, Karine, et à mon avis très logiquement, elle a encore davantage resserré l'étau autour de moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle m'a fait signer un document complémentaire parce qu'elle savait bien qu'à un moment donné, en tant que conjoint, et placé devant une compagne en train de se dégrader physiquement ou d'agoniser, je serais bien évidemment, d'un point de vue éthique, humain, amené à me dire, mais bon sang, je peux pas laisser ma conjointe décéder, c'est inconcevable pour moi. Donc, elle m'a fait signer un document complémentaire dans lequel je reconnais que le fait que je sois son conjoint ne m'autorise aucunement à transgresser les règlements que j'ai cités juste avant. C'est-à-dire qu'elle a, entre guillemets, elle m'a privé, complètement privé, de la possibilité de la secourir. Et ce faisant, elle a eu raison, entre guillemets. Pourquoi? Parce que si elle ne l'avait pas fait, ça n'avait aucun intérêt qu'elle fasse une grève de la faim et une grève de la soif. Pourquoi? Parce que bien évidemment, elle n'aurait par cette action exercé aucune contrainte sur l'autre partie, l'institution judiciaire. Puisqu'en fait, ils auraient fonctionné et abordé cette grève en se disant, oui, mais de toute façon, elle a à ses côtés son compagnon, il est médecin, il est évident qu'il ne va pas la laisser mourir. Donc, nous, institution judiciaire, nous ne risquons rien et nous n'aurons pas à répondre éventuellement du décès de Madame Trapp. Eh bien, messieurs, je vous l'ai écrit de nombreuses fois. Messieurs, mesdames, je vous l'ai écrit de nombreuses fois. Je vous le redis aujourd'hui. Je ne pourrai pas secourir ma compagne. Je n'en ai pas le droit et je suis lié par le code de la santé publique que j'ai cité, par la déclaration de Malte que j'ai cité et par le document que ma conjointe m'a fait signer et dans lequel je me suis engagé. Je ne peux pas revenir en arrière. Et si je ne l'avais pas fait, que tout le monde, parce que je reçois, il faut le savoir, et je ne leur en veux pas. Ce sont des gens qui sont très soucieux pour la santé de Karine. Au contraire, je les en remercie. Mais je reçois des appels de personnes qui me disent, docteur Labrèze, vous êtes en train de faire mourir Madame Trapp. Non, 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 non. Il ne faut pas se tromper. Ceux qui ont poussé Karine à cette extrémité, ceux qui l'ont acculé à cette extrémité, qui l'ont désespéré, c'est l'institution judiciaire et ce sont les services.
Ne nous trompons pas quand même ne nous trompons pas quand même à la base. Hein.
Effectivement. Ne nous trompons pas de cible, s'il vous plaît. Ne vous trompez pas de cible. Et si je n'avais pas accepté de signer le document, Karine me l'avait dit, c'est très simple. Jean-Philippe, tu ne seras pas à mes côtés parce que tu ne seras pas une aide pour moi ou un support, tu seras mon tendon d'Achille. Les gens en face sauront que je ne conduirai pas mon action jusqu'à son terme parce qu'inévitablement, il y a bien un moment ou un autre, tu seras obligé de me secourir. Humainement, éthiquement, parce que je suis ta compagne. Donc, je suis à ses côtés pour l'aider et je le fais, comme je l'ai dit à certains, la raison pour laquelle au bout de 20 jours de grève de la faim et 4 jours et demi de grève de la soif, elle n'est pas dans un état plus dégradé que ça, c'est que je lui donne, sans que ça la contraigne à boire, parce qu'elle fait une grève de la faim et de la soif stricte, je lui donne des compléments nutritionnels. Je lui donne de l'acide ascorbique pur qui soutient ses surrénales.
C'est très bien. Tenir très longtemps, Jean-Philippe, ça.
Alors voilà, mais je vais y venir. C'est quelque chose qui retarde l'échéance, mais qui ne va pas changer le cours inévitable des événements. Donc la vitamine C qui favorise ce qu'on appelle la production des catécholamines, des substances cérébrales qui permettent le fonctionnement cérébral, des surrénales qui permettent de produire l'adrénaline et qui donnent de l'énergie, des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B1 qui sert à produire de l'énergie. Qui protège la fonction rénale, mais ça va pas durer indéfiniment. J'aide Karine à durer un peu plus et à conserver des facultés qui lui permettent de continuer à faire ce qu'elle a à faire. Mais maintenant, même aujourd'hui, c'était compliqué de se bouger physiquement. Voilà, ça devient compliqué. Donc, messieurs de l'institution judiciaire, ne vous trompez pas. Karine est déterminée. Si vous ne lui rendez pas ses enfants, elle conduira son action jusqu'à son terme. Et vous en assumerez la responsabilité. Et je voudrais revenir rapidement, oui, sur l'entretien que j'ai eu avec Monsieur Morel, parce que de mon point de vue, il est important. Le premier point, c'est que Monsieur Morel, et je veux le croire, a souligné sa préoccupation quant à la vérité. Mais je lui ai dit une chose très simple. Je lui ai dit, Monsieur Morel, la vérité, elle ne pourra jamais advenir dans ces dossiers. Aussi longtemps qu'il y aura un tel déséquilibre entre la parole de l'aide sociale à l'enfance, qui est une parole d'évangile pour l'institution judiciaire, et la parole des parents, qui est niée à un point inimaginable. Pour que la vérité puisse émerger, il faut qu'il y ait un réel débat contradictoire. Et encore une fois, ça demande un rééquilibre, que chacune des deux parties, aseux et parents, soient placées sur un pied d'égalité. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je lui ai quand même rappelé que ce dossier, depuis le départ, repose sur les allégations et les calomnies d'un monsieur, le père de Samuel, monsieur Durand, et que c'est un monsieur qui a quand même été assez tordu pour produire des photos, pour s'auto-mutiler, et prendre des photos de cette auto-mutilation et les produire comme pièces à charge pour faire inculper et condamner la mère de son propre fils. Dans quel esprit tortueux ou tordu une telle idée peut-elle germer? Et j'ai également souhaité lui rappeler quelque chose d'important, c'est qu'au moment où la magistrate en charge du dossier de Noah l'a replacé pour 15 mois, elle avait pourtant entre les mains un dossier émanant d'une professionnelle très aguerrie, qui est venue avec deux professionnels très aguerris, puisqu'elle est venue en compagnie d'une psychologue, et que ce rapport préconisait le retour de Noah et acter, j'ouvre les guillemets, l'extrême bienveillance de la maman. Alors, quand il y a extrême bienveillance de la maman, qu'on vienne m'expliquer où est le danger. Et bien évidemment, de danger, il n'y en a pas. Et Karine d'ailleurs rappelait que quand Noah a été expertisé, 3 semaines après lui avoir été arraché, le confrère expert pédopsychiatre qui avait conduit l'expertise avait conclu que Noah était en parfaite santé, parfaitement équilibré. Aucune menace, bien évidemment, aucun danger. Donc, j'ai rappelé à ce monsieur que tout ce dossier reposait sur les propos d'un menteur et que la magistrate, quand elle avait replacé, avait un document de la PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse, quand même, un service du ministère de la jeunesse, de la justice, pardon, pas, voilà, donc, et que ce document aurait dû faire foi, et bien pourtant, elle a replacé Noah pour 15 mois.
Oui, bien voilà. Sûr. On a quelqu'un dans le chat qui a publié, j'ai eu le temps de prendre la photo, qui a publié, c'est Julie, qui dit « Vivant en gendarmerie depuis 15 ans, je peux vous garantir que c'est une chose très fréquente, ils sont protégés, couverts et il est très difficile de prouver quoi que ce soit contre eux. »
Exactement. Et peut-être deux autres points qui m'apparaissent très édifiants. Il faut comprendre, et d'ailleurs c'est la présidente, Madame Marty, de la chambre d'appel pour les mineurs, qui l'illustre très clairement, parce qu'elle, quand Karine fait appel, eh bien, ses jugements, elle est systématiquement déboutée en appel. Et la dernière fois, Madame Marty écrivait quelque chose de très intéressant. Je la cite de mémoire, mais on peut retrouver ça dans le jugement. Donc, la demande de Madame Trapp de récupérer ses enfants apparaît parfaitement légitime, c'est-à-dire fondée en droit, légitime, mais, le mode d'action de Madame Trapp pose problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est très clairement ce qu'on appelle, mes confrères américains appellent le double bind, le double lien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous ne faites rien pour récupérer vos enfants, eh bien, ils feront partie des 80% d'enfants qui restent placés à l'ASE jusqu'à leur majorité. Et si vous faites quelque chose, alors là, l'institution judiciaire va devenir très fâchée et va vous le faire payer en conservant vos enfants jusqu'aux 18 ans. C'est-à-dire que vous fassiez que vous agissiez ou que vous n'agissiez pas, vos enfants vont rester placés dans 80% des cas jusqu'à leur majorité.
Dans ce même arrêt, il y a quand même des services qui disent à deux endroits qu'il n'y a pas de danger.
Dans ce même arrêt, ça c'est quand même un autre point fondamental, les services sociaux viennent dire eux-mêmes que ce qui aurait dû être un motif ou légitimer le placement n'existe pas. N'existe pas.
Ça c'est quand même un comble. Le comble du placement.
Il n'y a pas de danger. Voilà, ça c'est important. Mais on replace quand même l'enfant pour 15 mois avec visite médiatisée. Et puis, l'autre point important que j'ai voulu souligner auprès de Monsieur Morel, c'est que Karine Trapp, donc ma conjointe, n'a pas de ce qu'on appelle de DVH, de droit de visite et d'hébergement. Le papa de Noah, lui, a systématiquement Noah pour toutes les vacances. Or,
c'est-à-dire le papa qui n'est pas le papa, en fait. On est bien d'accord là.
Alors, le papa de Noah. Le papa de Noah, c'est le plus grand, c'est l'aîné.
Donc,
c'est lui qui est employé. Et le papa vit dans le Nord. Où exactement, Karine, déjà? En Normandie. Voilà. Et donc, là, le papa a des problèmes de santé, donc ne peut pas avoir Noah tout le temps avec lui. Donc, il a ce qu'on appelle en DVH. Systématiquement, pendant les vacances, Noah part là-bas. Sauf que, il faut savoir quand même que la magistrate qui a octroyé ses droits de DVH systématiques au père de Noah ne l'a jamais vu. Pendant les 3 audiences où elle a eu à statuer, le père n'était pas là, il était représenté par un avocat, donc elle ne le connaît pas. Le seul élément factuel dont elle dispose, c'est une décision de justice de décembre 2018 qui a retiré Noah en catastrophe à la garde de son père en actant un état de santé extrêmement préoccupant quand même. Et qu'en plus, ce monsieur a fait l'objet d'un rappel à la loi pour violence contre Karine, y compris dans certaines circonstances, devant l'enfant. Donc, Karine, qui est une maman extrêmement bienveillante, dans le rapport de la PJJ, demande le retour des enfants à domicile, dont tous les éléments factuels et objectifs du dossier attestent que c'était les enfants s'épanouissaient avec elle, y compris l'expertise pédopsychiatrique. On lui fait l'aumône de quelques visites médiatisées, puis maintenant semi-médiatisées, 2 fois 4 heures par mois, et le papa que la magistrate ne connaît pas, qui a fait l'objet d'un rappel à la loi pour violence contre Karine, eh bien lui, qui effectivement auquel l'enfant a été retiré en décembre 2018 en catastrophe, lui par contre, c'est le bon papa auquel on remet systématiquement l'enfant.
Mais en fait, c'est ce que l'on voit dans chacun des dossiers, pardon Jean-Philippe, hein, c'est ce qu'on voit dans chacun des dossiers en fait tout le temps. C'est toujours dans l'inversion des valeurs, dans l'inversion accusatoire, c'est toujours comme ça. Beaucoup de gens ignorent en fait que c'est comme ça en France. Moi, je voudrais juste rebondir un peu sur votre histoire pour ça, parce que en fait, c'est plus de 600 000 enfants placés, sachez-le, dont plus de la moitié sont placés abusivement. De la même manière que les enfants de Karine, comme l'explique Jean-Philippe actuellement, c'est exactement ce qui se passe en France actuellement. Et il faut vraiment que les Français prennent conscience de ça. Aujourd'hui, c'est Karine. Demain, ce sera vous. Pour les vaccins, pour le masque, pour autre chose. Prenez bien conscience de ce qui est en train d'arriver. Beaucoup dans le chat disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, se rassembler, monter des collectifs dans tous les départements, faites des choses pour aider les mamans, parce que croyez-moi, si la justice se met après vous, pour X ou Y raison, sachez qu'il y a beaucoup de signalements dans les écoles aussi. Sachez que il y a on fait remplir en maternelle notamment, on fait remplir un petit truc qui s'appelle Esculap, et que ça part au conseil général, et que le conseil général peut débarquer chez vous ou envoyer la PMI, envoyer des gens pour vous contrôler, pour savoir ce qui se passe chez vous et tout. Donc nous sommes tous actuellement, peut-être demain victimes de la justice par rapport au placement d'enfants. Il faut vraiment que vous en ayez conscience.
C'est vraiment important de le garder à l'esprit. Et encore une fois, c'est l'arbitraire avec laquelle ce système peut vraiment se déployer, la violence avec laquelle il peut se déployer. Moi, je garde à l'esprit ce qu'en disait un monsieur qui s'appelait Philippe Séguin. Donc, il a été président de la Cour des comptes, il a été président de l'Assemblée nationale aussi. En 2009, il rendait un rapport au sujet de la protection de l'enfance. Et il avait des mots très sévères, mais il avait ces mots très sévères après une longue enquête sur le sujet. Sévères, pourquoi? Parce qu'il parlait de la violence institutionnelle de ce système. Et il allait même plus loin puisqu'il parlait de la barbarie de ce système. Et ce que je vois à travers le dossier de Karine, et à travers le dossier d'autres mamans qui l'ont accompagné, donc Laura Villot, qui a conduit pendant 15 jours la grève de la faim à ses côtés devant le tribunal d'Alès, et puis qui a dû arrêter pour des raisons familiales impératives, et puis d'ailleurs aussi pour des soucis de santé.
Julie qui poursuit, ce milieu est tellement corrompu que des femmes n'osent même pas partir de chez elles ou de leur couple par la peur des gendarmes, et la garde de leurs enfants et le conjoint s'ils se séparent est puni.
Exactement, et elles ont raison. Moi, j'ai retrouvé, si vous voulez, dans cet environnement-là, des gens terrorisés, comme j'ai pu en retrouver quand je présidais une association qui combattait les abus psychiatriques, les internements abusifs.
C'est la même chose.
Ces enfants, exactement.
C'est le même principe. Exactement. On a aussi beaucoup de parents qui ont des enfants placés handicapés aussi, que la justice décide d'elle-même de placer en estimant que le parent ne serait pas compétent. Ça, on l'a vu dans l'histoire de Néo, justement, un petit garçon qui était handicapé. Enfin, c'est ce qui est en train d'arriver. Il faut que les gens vraiment prennent conscience de ce qui se passe. Si nous ne nous regroupons pas, si nous ne faisons pas pression quand une maman est harcelée et qu'il y a une quinzaine de mamans chez elle au moment où l'ASE vient, je vous assure, il y a des choses que l'on peut faire. C'est d'aller, au moment où une maman est prise dans cette situation, c'est d'aller et d'être une quinzaine et tout le monde prend son portable et enregistre. Je vous garantis, moi je voudrais parler 5 secondes de Wanted Pédo parce que c'est pas le sujet ce soir, mais cette association fait énormément et vous savez pourquoi ils réussissent? C'est parce qu'ils médiatisent, c'est parce qu'ils sont dans les tribunaux et qu'ils sont nombreux à y aller. Et c'est comme ça qu'on se fait entendre, c'est en étant nombreux. Et rejoignez-vous et menez des actions dans un collectif. Il n'y a pas besoin de monter une association. Un collectif tout simple dans chaque département, par exemple.
Et assidu dans le temps, parce qu'il y a des fois des parents ou des citoyens qui ont des élans comme ça, mais c'est dans la longueur qu'il faut tenir.
Oui, il n'y a pas de longueur. Ça, c'est vrai, et tu as raison d'en parler et de soulever le problème, Karine, parce que c'est vrai que, en fait, les gens, là, on est dans du virtuel, d'accord, on se parle, on est dans le virtuel. Mais ce que vous voyez, c'est pas un film, c'est la vraie vie. Karine, elle est vraiment sans manger depuis 20 jours et sans boire depuis bientôt 5 jours. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a plein de, Il y a des mamans qui se suicident. Il y a des papas qui se suicident. Il y a des grands-parents qui tombent malades. Il y a plein de gens qui sont impactés par ce qu'il se passe. Donc, il faut qu'il y ait un suivi sur la longévité, en fait, des choses.
Sur la longueur, exactement. Et d'ailleurs, des enfants qui se suicident. Puisque je crois que c'est aujourd'hui une demoiselle de 15 mois qui s'est suicidée.
Tout à fait.
15 ans, pardon. Et je voudrais venir voir dernièrement lors d'un entretien. A dit à sa maman qu'il allait se jeter par la fenêtre pour qu'il comprenne, voilà.
Pour qu'il comprenne,
c'est ça.
Donc il faut quoi? Il faut attendre encore cette tragédie-là pour que simplement Noah revienne là où il n'aurait dû jamais dû cesser d'être, à côté de sa maman, avec son frère Samuel.
Quand on parle d'elle, je sais que ça c'est l'histoire de beaucoup d'enfants. Hein. Je ramène à la mienne parce que je la connais bien. Mais parallèlement à ça, on lui coupe son suivi psychologique, c'est-à-dire qu'il avait une psychologue dont il était très proche depuis plusieurs années, qui elle-même a alerté parce que Noah commençait à s'automutiler l'année dernière en plein confinement. Les éducateurs ont avoué en off que oui, ils s'inquiétaient, mais officiellement personne n'a alerté. C'est quand même cette psychologue qui a alerté et qui a réussi à apaiser Noah. Et bien, on lui supprime son suivi psychologique.
Ça coûte cher à la société. On disait tout à l'heure combien rapporte au conseil, parce que interpellons aussi quand même le conseil général, le maire de Nîmes, vous êtes où, monsieur le maire? Interpellons ces gens-là en leur demandant, je voudrais savoir, tu disais Karine, le montant total d'un enfant placé, c'est combien au conseil général?
Alors, les chiffres qu'on a, c'est 7 000 à 7 500 euros de budget par enfant placé mensuellement.
Par mois?
Par mois. Quand on sait que parallèlement, on enlève des enfants pour des simples soucis de logement, 7 500 euros par mois, il y avait pas les parents.
Ça fait donc pratiquement 80 000 euros par mois au conseil général, on est d'accord.
C'est 21 000 euros mensuels si l'enfant est handicapé.
Alors, handicapé, ça peut être déclaré MDPH dans les mois, les années suivant son placement parce qu'on réclame trop sa maman. On a des cas en Bretagne ou autre.
Alors, justement, je voudrais étayer ce problème.
Sa maman, elle met sous psychotrope et on déclare MDPH.
Voilà. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, mais ça c'était des prix qui étaient en 2017. Je voudrais quand même, parce que tous les liens, encore une fois, sont mis sous. Je vous ai trouvé tous les liens et c'est sous la vidéo. L'hébergement en internat collectif dans les MEC, c'est 178 euros par jour. Mmh. Foyer de l'enfance, 217. Ce sont les chiffres de 2017, je reprécise. Hébergement éclaté individualisé, 123 euros dans les MEC, 130 euros dans les foyers. Pour ce qui est des villages d'enfants, c'est 213 euros sur le lieu de vie, d'accord? Donc ça, vous voyez, c'est pas payé pareil, ça dépend où vos enfants sont placés. Pour les placements à domicile, par contre, 71 euros ou 117 euros. Pour les assistants familiaux, 167 euros. Les lieux de vie, 178 euros. Voilà, faut quand même, il y a une manne financière. Comprenez bien qu'il y a une énorme manne financière derrière pour tous les acteurs de cette justice.
Et des emplois et quelques privilèges et quelques petits détournements de fonds dans les associations. Alors ça, je ne donne pas de nom précis, mais il y a plusieurs reportages. C'est des centaines de milliers d'euros détournés puisque c'est un contrôle en moyenne tous les 23 ans.
Tous les 23 ans par la Cour des comptes. Et on sait qu'actuellement, j'ai trouvé un article le 10 septembre 2018, pénurie de familles d'accueil qui ne cesse de grandir et les départements peinent à recruter, ce qui met en danger la protection de l'enfance en France. Ben, nous, on la trouve pas vraiment en danger parce que vu ses compétences, franchement, on la trouve pas en danger. Donc, en fait, on a à peu près 40 000 familles d'accueil en France, paraît-il. Donc, au final, ça fait une sacrée manne financière. Et ça m'étonnerait bien que les familles d'accueil touche cet argent. Ouvrez vos yeux.
Certains parlent de trafic d'enfants. Il y en a certains qui parlent de trafic d'enfants, juste à titre.
Il y a un vrai trafic d'enfants.
Sur le blog, le blog Libéré Samuel et Noah, je mettrai d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai fait, un article de M. Morillon sur l'enfant marchandise. Voilà, à quel point, voilà, ben c'est juste une marchandise. C'est un budget considérable. Et c'est devenu malheureusement une marchandise. Alors, c'est quelque chose qu'il faut effectivement. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, sur le Pierre Naves aussi, je citais Philippe Seguin, mais Pierre Naves, inspecteur général des affaires sociales, lui disait en 2009, d'ailleurs, en même année, que la moitié au moins des placements étaient injustifiés. Donc, il aurait pu dire abusif. Hein. C'était la terminologie aurait changé, mais le concept était le même, abusif. Voilà.
Et il a dit qu'il avait interrogé 5 ans après. Il suffit de taper Pierre Naves 5 ans après sur YouTube. Il y a une courte vidéo qui est extraite de cette émission envoyée spéciale de Naves, je crois. Il est réinterrogé 5 ans après. Il confirme ce chiffre. Il dit, mais il faudra 15, 20 ou peut-être 25 ans pour réparer le système. C'est-à-dire que, voilà, 15, 20 ou 25 ans d'enfants placés abusivement à hauteur de 50% des placements minimum par an.
Et de vie détruite.
C'est ça.
C'est terrible.
C'est ça.
Et, ouais.
Voilà ce qu'on peut vous faire sur. Et des questions, bien sûr, hein, c'est volontiers.
Voilà, on a un peu fini pour tout ça. Je sais que Karine est très fatiguée. Je rappelle, voilà, les gens demandent s'ils peuvent agir. Moi, je crois que en écrivant des mails, peut-être, en interpellant partout où ils peuvent, à Nîmes, en tout cas auprès des juges, auprès de moi, peut-être rappeler. Karine, qu'est-ce que tu en penses?
Ah pardon, on a un décalé, j'ai coupé. Pardon. Oui, effectivement, écrire à Nîmes pour Noah et amende pour Samuel et Noah, puisque la juge des enfants demande à placer les deux à la base. Et puis, bah, pourquoi pas, parce que là, on est vraiment dans la dernière ligne droite, venir pour ceux qui le peuvent, évidemment. Nous soutenir encore demain à Nîmes, devant le palais de justice, lundi encore. Et après, on ne sait pas trop dans quel état on sera, quand je serai. Mais... En tout cas, voilà, pour ceux qui peuvent, la présence sur place, évidemment.
En tout cas, tu es très déterminée à aller jusqu'au bout parce que les gens ont un petit peu de mal à comprendre ta détermination dans le chat, j'ai vu à plusieurs reprises. Toi, dans ta tête, tu es très déterminée, en fait, à aller jusqu'au bout.
Moi, ce que je veux, voilà, comme je l'explique, j'ai, comme beaucoup de personnes, beaucoup de ressources et de force en moi, mais après des années de combat et surtout, quand vous voyez que même avec un rapport favorable et d'autres preuves, des expertises médico-légales, etc. Rien ne bouge. J'ai bien compris que rien n'avait bougé. Donc, c'est pas une question de patience ou d'attendre la justice. Elle n'arrivera pas, cette justice. Alors, j'ai décidé de, voilà, mettre toutes les forces que j'ai d'un coup, d'aller jusqu'au bout, en espérant pas mourir. Évidemment, c'est pas le but, mais voilà. Je tiens à alerter de cette manière-là. C'est tout ce qui me reste à leur donner à ce jour-là. J'aurais tout donné. Mes enfants, mon argent, mon temps, mon métier, ma santé, parce que ça pourrit la santé, hein, de se battre comme ça. Donc, j'ai décidé moi-même de me faire violence un bon coup en me disant à eux de choisir. Est-ce qu'il a ce péter dossier aussi pourri, aussi honteux mais j'ai l'impression qu'ils vont alors soit me laisser aller jusqu'à la mort, je l'espère pas. Voilà, il y a un petit pourcentage de chances que ça arrive, mais je compte pas dessus. Et si ça arrive, bah, on en reparlera entre vous après. Mais sinon, je compte encore. Voilà, je pense qu'ils vont me laisser aller peut-être jusqu'à l'agonie. Je ne sais pas. Avant de réagir. On verra. Ah, on n'a plus de son.
Si. Ah, toi Corinne, par contre, on ne t'entend plus.
Il y a le son, il est coupé son son en fait. Marqué micro coupé.
Ah oui. Corinne, tu sembles avoir ton micro coupé. Nous, on ne t'entend plus.
Ça y est, j'avais mon micro coupé.
Ok,
super. Est-ce que les gens demandent beaucoup pour t'aider, Karine, pour te venir en aide? Est-ce que ça serait judicieux d'envoyer des mails? Est-ce que ce serait judicieux de qu'est-ce qui peut t'aider en dehors du fait de tes enfants, évidemment?
Alors voilà, c'est très gentil de vouloir aider. Effectivement, c'est le moment. Merci beaucoup. Alors donc soit venir sur place, comme je vous le rappelais, demain dimanche, donc devant le tribunal de Nîmes. Sachant qu'il y a en plus toujours des parquetiers et autres magistrats de permanence, hein, même si le tribunal est fermé, lundi éventuellement, et puis d'écrire alors, au tribunal de Nîmes pour Noah et au tribunal de Mende pour Samuel et Noah, puisque Samuel est retenu par ce tribunal, mais ce tribunal est aussi à l'origine du placement de mes deux enfants. Et puis une amie commune qui est pas loin vient de me donner un papier, apparemment, vous auriez parlé avec quelques connaissances communes d'un hashtag. Alors, moi, j'ai pas Twitter, mais elle m'a parlé d'un hashtag. Tu l'as noté?
C'est le hashtag Monsieur Éric Morel, donc sur son Twitter. Allez-vous laisser mourir Karine Trapp? Voilà, une question. On interpelle, ceux qui veulent le faire peuvent interpeller Monsieur Morel puisqu'il a le pouvoir d'agir et d'influer sur le cours des événements, sur le très court terme, parce que peut-être une dernière chose, c'est quand la justice est intervenue dans la vie de Karine Trapp pour la mettre, pour la bouleverser, pour la détruire, ça a pu se faire très vite.
Oui, mais très vite, oui, c'est vrai. Mais le travail inverse a l'air de prendre beaucoup plus de temps, manifestement.
Ça prend beaucoup de temps, mais ça pourrait être aussi rapide, c'est-à-dire que la magistrate en charge du dossier de Noah peut statuer demain. Elle peut se dire, bon, ben, c'est assez important pour que je vienne travailler un dimanche. Rendre une ordonnance demain en levant le placement de Noah et en nous demandant d'aller le chercher au foyer dans lequel il se trouve. Voilà, ça peut être reconstruit aussi rapidement. Alors, ça n'effacera pas 4 années de douleur, de traumatisme, de détresse pour Karine, Samuel et Noah, mais le fait de pouvoir se reprojeter à partir de demain dans le futur et avoir la certitude qu'ils vont reconstruire leur vie ensemble.
Bien sûr, il lui faut une ordonnance. Il lui faut une ordonnance en urgence, comme quoi elle récupère ses enfants, évidemment.
Voilà, et idem pour Samuel, un magistrat là-bas qui a détruit la vie aussi de Samuel, hein, le plaçant avec son père. Alors, ça ne... Voilà, Karine dit, moi, je souhaite donner les noms des magistrats, donc elle peut le faire, bien évidemment. Hein. On est dans un... D'ailleurs, M. Morel
Il y a une des personnes ici qui écrit de ta page, hein, Karine, libérez nos enfants, et qui dit, Karine, j'ai très peur pour toi. De mon côté, je ne récupère pas de mes 15 jours de grève. Donc, je voudrais préciser que Karine n'est pas toute seule. Il y a 3 autres mamans avec toi. Peux-tu donner les noms de ces mamans, Karine, s'il te plaît?
Alors effectivement, on était jusqu'à il y a très peu, on était 4 mamans à mener ce combat. Alors certaines ont choisi la forme de la grève de la faim, d'autres une présence quotidienne sans grève de la faim. Quand même préciser qu'elles venaient en journée par solidarité. Alors on était donc moi-même, Laura Villot. D'ailleurs je précise, la page c'est une page commune, mais c'est Laura qui la gère, donc c'est elle qui est en train d'écrire en ce moment. Donc c'est Laura Villot qui a mené aussi cette grève de la faim au quotidien pendant 15 jours. Laura Villot, donc la maman de Néo, qui a 4 ans. Il y a aussi, présente tous les jours, Aurélie Darlé. Alors, son vrai nom, c'est Aurélie Darlé Tessier, elle y tient. Et sur les réseaux, c'est Aurélie Darlé, L-E-T, à la fin, qui est la maman de Emma et Sarah. On a beaucoup d'intervenants communs, d'ailleurs, dans le même tribunal, les mêmes sociaux, etc. Et la dernière maman, là, c'était une rencontre assez émouvante, parce que c'est une maman qui pensait être seule, qui nous a vu dans la presse et qui est arrivée... Il nous a déballé son histoire horrible, hein. 20 gendarmes pour lui prendre ses enfants. Voilà.
3 enfants. Bah, on a ce genre de témoignages. Je pourrais vous donner tous les témoignages que j'ai tellement. J'ai 2 mails. J'ai à peu près 20 à 30 mails par jour. Ça fait un paquet de temps que j'ai dénoncé l'ASE et tout le reste. Donc, en fait, j'ai des témoignages horribles, vraiment. Je peux tous vous mettre en lien.
Ça veut dire. Ça y est, c'est revenu.
On est coupé. Moi, je suis coupée là actuellement.
Ah,
le live. Je ne sais pas si les modérateurs m'entendent toujours.
On t'entend, nous.
On a perdu Karine et Jean-Philippe. C'est un peu dommage, j'aurais voulu qu'ils donnent la fin de l'histoire. Ah, vous êtes de retour. On était coupés.
Donc, cette maman, c'est Julie Trécani, cette dernière maman. Julie Trécani. Voilà, qui voit un gendarme pour lui arracher ses petits qui étaient tranquillement dans la maison de papy et mamie en train de regarder la télé.
Oui, j'ai vu cette histoire. On va couper le live, hein, ça fait 2 heures de live, c'est beaucoup, les gens regarderont pas. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que tu étais fatiguée aussi. Je remercie tous les gens qui ont été présents là. Je remercie tous les gens qui voudraient bien écrire au procureur et faire du tapage, faire du bruit, se faire entendre et demander que les choses changent pour Karine et interpeller. Partout où vous pouvez interpeller, faites-le. Je remercie Karine pour le courage qu'elle a de mener ce combat avec son ami Jean-Philippe. Sachez que plein d'autres mamans sont dans son cas et on continuera de prendre des nouvelles avec toi, évidemment. Avec toi, Jean-Philippe, bien sûr, on reste en contact pour continuer à dénoncer ce qui se passe journellement. Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Oui, tu quittes pas, enfin, on se parle après, hein. Tu ne quittes pas, s'il te plaît. Merci à tous, merci à mes modérateurs. Partagez partout où vous pouvez. Voilà, à très bientôt. À très bientôt à tous.
Merci Corinne et merci à ceux qui ont pris le temps d'écouter. C'était bon. Ça valait la peine. Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée à tous. Au revoir.